Vous êtes sur RTL.
Je connais pas.
Les jours fériés, on travaille avec les stagiaires. Ouais,
ah, est en période d'essai depuis quelques années.
Ben, je peux dire la même chose. Hein.
Ce sera un bonheur, évidemment. À tout de suite,
à
Marina.
Tout de suite.
Dominique, à demain, 5h du matin. On est ravis de vous accueillir en ce mercredi férié. Fête nationale, 14 juillet, où la tradition l'emporte sur le virus. Les balles des pompiers, les feux d'artifice et le défilé militaire. L'an dernier, c'était juste une cérémonie en raison de la pandémie. 2021, ça se passe sur les Champs-Élysées, où se trouve Brice du Génie. Bonjour, c'est le retour du Grand Barnum. Hein.
Absolument, bonjour Stéphane. Retour du vrai défilé. Devant moi, les Champs-Élysées sont bien dégagés, prêts à accueillir 5000 hommes et femmes, 73 avions, 24 hélicoptères, 200 véhicules blindés, dont le Griffon dans lequel se trouve notre reporter Julien Fautra. Et puis pour finir, 150 chevaux de la garde républicaine avec deux thèmes mis en avant pour ces deux heures consacrées aux armées, la jeunesse et la concorde nationale.
Le défilé du 14 juillet, fil rouge d'un RTL matin très bleu, blanc, rouge avec nos reporters sur place, le gouverneur militaire de Paris, chef de toute l'organisation, le général Abad, notre invité à 8h20. Alors bienvenue, garde à vous. Non, je plaisante. Repos tout le monde. Soyez détendus, c'est RTL, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et le caporal Choquet pour toute l'information du mercredi. Bonjour Isabelle.
Bonjour, à vos ordres capitaine.
À la une, le pass sanitaire qui fait une pause pour les jeunes.
Ils ont finalement jusqu'au 30 août pour être totalement vaccinés. Même chose pour les salariés des lieux publics, notamment les bars et les restaurants. Les feux d'artifice du 14 juillet, denrées rares cette année entre épidémie de Covid et météo capricieuse. Le défilé sur les champs, lui, est de retour, vous le disiez. Et RTL a embarqué dans un blindé dernière génération. À suivre également la débandade en Afghanistan. La France appelle ses ressortissants à quitter le pays au plus vite. Et puis le Tour de France avec une étape qui promet du sang et des larmes dans les Pyrénées.
RTL Matin.
Un été tranquille ou presque pour nos ados, Olivier Véran a annoncé hier un assouplissement du pass sanitaire.
Oui, alors il sera toujours réclamé dès la semaine prochaine dans certains lieux publics, mais pour les jeunes, c'était compliqué. Hein. Ça ne fait pas longtemps qu'ils peuvent se faire vacciner. Difficile donc d'avoir son pass à temps pour les vacances. Alors le ministre de la Santé a fait cette déclaration hier soir.
Pour eux, le pass sanitaire s'appliquera dans tous les endroits où il s'applique à compter du 30 août. Ce qui veut dire concrètement que jusqu'au 30 août, d'abord, nous invitons les adolescents à se faire vacciner massivement. Mais jusqu'au 30 août, si un adolescent est totalement protégé, c'est-à-dire qu'il a son pass sanitaire en bonne et due forme, il pourra aller dans tous les endroits qui nécessitent le pass sanitaire, même sans masque, là où le masque n'est pas requis. Par contre, il devra conserver toujours le port de masque partout où ce sera nécessaire, tant qu'il n'aura pas atteint le niveau de protection conféré par la vaccination. Donc le 30 août pour les adolescents.
Olivier Véran hier sur France 2, cette annonce a été un vrai soulagement pour beaucoup de jeunes, hein, Valentin Boissé.
Oui, dans ce groupe d'amis, les âges vont de 14 à 17 ans. Sur les 6, seuls 2 sont vaccinés.
Pas vaccinés.
Pas vaccinés.
Pour l'instant, pas vaccin.
Le pass sanitaire annoncé un été compliqué. Désormais, les visages sont plus détendus. Certains ont reçu des messages des parents car l'organisation des vacances en famille sera plus simple.
Je pars là à Belle-Île et puis après je pars avec ma famille. Du coup, il n'y a pas de problème.
Donc. L'été, ça s'annonçait un peu compliqué.
Étant donné que j'ai pas le pass sanitaire, ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu. C'est un soulagement et ça va pouvoir nous faire profiter de notre été et concentrer un peu sur ça plutôt à la rentrée.
Pour Nicolas, situation encore plus complexe car il y avait un départ prévu dans un centre de vacances sur la côte méditerranéenne. Les parents ont posé la question de l'annulation car il n'est pas vacciné, mais avec cette annonce, le départ aura bien
lieu. Moi, je suis soulagé, honnêtement. Deux, trois trucs qui ont pu être empêchés justement parce que j'étais pas vacciné. Je vais profiter un maximum, cinéma et tout ce qui a réouvert, les bars, les terrasses. Ouais.
Génération donc soulagée, mais tous disent garder dans un coin de leur tête l'échéance du 30 août avec l'espoir de trouver une dose dans les prochains jours.
Reportage RTL signé Valentin Boissé. Un délai jusqu'au 30 août donc pour les 12-17 ans et aussi pour les salariés des lieux publics, bars, restaurants, cinémas ou centres commerciaux. Il faut donc viser une première dose avant le 1er août dernier. Car là aussi, le gouvernement a fait un geste. Désormais, il ne faut plus qu'une semaine pour valider le pass sanitaire après la deuxième injection, une semaine au lieu de deux semaines actuellement. Pour l'instant, cette extension du pass sanitaire et aussi l'obligation vaccinale pour les soignants produisent des effets inespérés. Hier, on a battu un record, plus de de 800 000 personnes vaccinées sur une journée. Le site Doctolib a enregistré plus d'1 700 000 prises de rendez-vous en moins de 24 heures. C'est plutôt de bon augure et c'est tant mieux car les contaminations repartent à la hausse. Près de 7 000 sur les dernières 24 heures. On est revenu en fait au niveau de début juin sous la poussée du variant Delta.
Isabelle, nous sommes le 14 juillet et qui dit 14 juillet dit feu d'artifice. Enfin d'habitude c'est comme ça.
Oui d'habitude, mais cette année c'est un peu spécial. Beaucoup de spectacles pyrotechniques ont été annulés à cause de l'épidémie pour éviter les rassemblements. En région parisienne, en Bourgogne, en Alsace, c'est la pluie qui est venue gâcher la fête. Et puis dans le sud-est, on a préféré jouer la prudence à cause du Mistral. Mais à Salins-de-Giraud, près d'Arles, le feu d'artifice a bien été tiré au bord de la Méditerranée, Étienne Baudu.
Ah oui, c'est l'un des rares feux de la région à avoir pu être tiré hier soir. Il faut dire que le lieu est parfait pour la sécurité. Guy Partouche est le patron du camping Les Bois Flottés, là où il fallait être hier soir.
Nous avons de merveilleux salins. Il n'y a pas d'habitation. Le feu d'artifice va pouvoir se tirer au milieu de cette grande étendue d'eau.
Un feu qui n'est pas aussi long que celui de Paris, mais qui a ravi les vacanciers du camping et les habitants du village. Un air de vacances donc. Mais il faut bien l'avouer, tout le monde parlait aussi des nouvelles mesures gouvernementales et du désormais fameux pass sanitaire avec des avis parfois un peu opposés. Sonia et sa copine Joss.
Bah bien sûr que non, je ne suis pas d'accord. C'est trop brusque et trop rapide. De toute façon, au mois d'août, qu'on le veuille ou non, ceux qui ne sont pas vaccinés ne le sauront pas. Donc autant faire avec. Hein. Vous allez au restaurant, bah je ferai des repas à la maison. Ça ne gâchera pas mes vacances.
Moi personnellement, je me sens en sécurité du fait de m'avoir fait vacciner. Mes vacances, moi, je pense que bah, je vais me sentir libre de pouvoir aller un petit peu de partout.
Et la soirée paella du camping s'est un peu prolongée malgré le Mistral qui avait fait quand même enfiler à tout le monde un chandail.
Reportage d'Étienne Baudu à Salins-de-Giraud, près d'Arles et à Paris. Le feu d'artifice, c'est ce soir. Passe sanitaire obligatoire et jauge réduite à 15 000 spectateurs dans une zone réservée sur le Champ de Mars. Il faut un pass aussi pour assister ce matin au défilé sur les Champs-Élysées. La jauge dans les tribunes a été ramenée de 25 000 à 10 000 personnes. La parade, elle, va rassembler 5 000 militaires dans le ciel et au sol. Ils sont en train de converger vers la capitale en ce moment. Depuis 5 heures du matin, nous suivons le parcours d'un blindé Griffon avec à son bord notre envoyé spécial Julien Fautra. Vous êtes arrivé à bon port en fait, Julien.
Oui, dans le convoi et c'est spectaculaire. Notre colonne qui est composée de 16 griffons, 16 véhicules blindés qui entrent dans Paris à vive allure. Les derniers fêtards sortant de boîte de nuit qui applaudissent les soldats. L'arc de triomphe est maintenant devant nous. Je peux mettre une tête dehors par la trappe sur le dessus. Je vous parle depuis le toit du Griffon à 3 mètres de hauteur. Il s'est arrêté de pleuvoir. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. On est stationné ici depuis quelques minutes avec le chef Anthony. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de confort dans notre Griffon que dans les vieux véhicules blindés?
On a la clim. La clim, c'est très important. On a des sièges individuels. On avait des grosses banquettes super rigides. On avait des parois à droite et à gauche. C'était très, très, très dur. Là, maintenant, chacun a son petit confort, sa petite housse, les ceintures de sécurité qui sont vraiment améliorer et il n'y a pas le bruit surtout. C'est bête, mais le confort qu'on gagne dans le Griffon, c'est du repos pour les soldats pendant les temps de pause. Et ce repos-là, bah, il nous permet d'être plus efficace par la suite derrière.
Et ce Griffon qui a vocation à être déployé sur le terrain dans des conditions difficiles, je pense notamment au Sahel, où il peut souvent faire plus de 40 degrés et où ce nouveau confort, la clim, ne sera vraiment pas du luxe pour les soldats.
Julien Fautra qui suit donc ce défilé et qui est à bord d'un griffon, un blindé griffon pour RTL. Il y a 5 ans, le 14 juillet était marqué par un attentat terriblement meurtrier à Nice. Un camion avait foncé dans la foule sur la promenade des Anglais faisant 86 morts et plus de 200 blessés. Une cérémonie d'hommage est prévue cet après-midi en présence de Jean Castex, Éric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa. Le procès lui aura lieu à l'automne 2022. Et puis le 14 juillet, c'est aussi une nouvelle promotion de la Légion d'honneur. À l'honneur cette année, le philosophe Edgar Morin, élevé au plus haut grade, le skipper Jean Le Cam ou encore le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Et côté paillettes, cette promotion récompense Laetitia Casta, Jean-Pierre Pernaut et Harry Roselmack.
À l'étranger, Isabelle, c'est le sauf qui peut, vous nous le disiez en titre, en Afghanistan.
La France appelle tous ses ressortissants à quitter le pays car elle ne peut plus garantir leur sécurité. Avec le retrait des troupes américaines, la situation se dégrade très rapidement, Émilie Beaujard.
Oui, les talibans ne cessent de gagner du terrain. Ils s'approchent des grandes villes et notamment de la capitale, Kaboul.
Il demande maintenant aux civils afghans de se rendre pour éviter les combats. La communauté internationale est bien démunie. L'armée américaine s'est retirée, laissant l'armée afghane seule face à des milliers d'insurgés. Tous les yeux sont maintenant rivés vers Kaboul, là où se trouve le seul aéroport du pays et donc la seule voie d'entrée et de sortie sécurisée d'Afghanistan. L'armée turque devait en prendre le contrôle, mais les talibans la menacent de représailles. La crainte d'une guerre civile grandit, d'autant que les derniers étrangers sur place quittent le pays. La France met en place un vol spécial de rapatriement ce samedi, mais la situation sécuritaire évoluant très vite, l'ambassade conseille aux ressortissants français de quitter l'Afghanistan immédiatement par leurs propres moyens.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. À Cuba, une centaine de personnes, dont plusieurs figures de la dissidence, sont sous les verrous ce matin, accusées d'avoir participé aux gigantesques manifestations anti-gouvernement d'il y a deux jours. Le pouvoir en place accuse les États-Unis d'avoir provoqué ces rassemblements. Les manifestants protestaient surtout contre les pénuries alimentaires.
RTL, Tour de France 2021.
Et sur le tour, les coureurs vont souffrir aujourd'hui.
Oui, nous sommes toujours dans les Pyrénées et la 17e étape emmène le peloton sur 178 km entre Muret et Saint-Lary-Soulan. C'est haut, il fait froid, ça va être l'enfer, Mourad Djabari.
Oui, et les 100 derniers kilomètres ont des allures de montagne russe, peut-être l'étape la plus difficile du tour avec deux cols hors catégorie qui s'enchaînent pour ensuite finir à plus de 2000 mètres d'altitude. Et le col hors catégorie du Porté, Guillaume Martin va tenter de défendre sa 9e place au général et s'attend à voir les costauds au sommet.
C'est des arrivées au sommet, mais c'est surtout des vraies étapes de montagne. Demain, il y a trois cols qui s'enchaînent vraiment difficiles. Donc, une grande bataille. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les leaders de jouer la victoire.
Mais aussi de bousculer le maillot jaune Tadej Pogacar, le pousser dans ses derniers retranchements. Rigoberto Urán, Richard Carapaz, Jonas Vingegaard doivent aller à l'abordage. Une étape dans des conditions compliquées, encore une fois sous la pluie et le froid. Des éléments à prendre en compte, d'après Julien Jurdi, directeur sportif de l'équipe AG G2R Citroën.
On arrive quand même à des altitudes presque à 2000 ou au-dessus. Il faut faire attention à bien se couvrir pour ne pas prendre froid. Les coureurs sont affûtés au niveau des bronches, tout ça. Puis bon, les prises de risque dans les descentes, hein, la route est mouillée. Honnêtement, il y a toujours beaucoup de dangers sur les routes avec la pluie.
Une étape qui va forcément provoquer des écarts au général et où les leaders ne pourront plus se cacher.
Mourad Djabari, envoyé spécial d'RTL sur ce Tour de France. En tennis, Roger Federer jette l'éponge. Il ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Suisse s'est de nouveau blessé au genou. Il espère quand même pouvoir reprendre la compétition un peu plus tard dans l'été. Et puis un peu de foot. Pour regarder les matchs de Ligue 1 la saison prochaine, sachez-le, vous devrez débourser quasiment 13 euros, 12,99 euros exactement. C'est le tarif annoncé par Amazon Prime qui vient d'acheter les droits pour les trois prochaines saisons. C'est une somme qui s'ajoute aux 6 euros par mois de l'abonnement de base.
Paris, Longchamp pour les courses aujourd'hui.
Et les pronostics de Jordan Philippi, le 9, le 2, le 6, le 10, le 12, le 11 et le 5. 9, 2, 6, 10, 12, 11, 5. La dernière minute de Jordan, c'est le 6, c'est la Tour Frost.
C'est bien noté, merci Isabelle. On vous retrouve à 8h bien sûr, toute l'actualité quand vous le souhaitez sur l'appli RTL. Il est 7h11.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Nous vous offrons ce matin une promenade dans le Lot, au cœur du vignoble de Cahors, à la découverte des vignes et d'un village médiéval, puis l'évêque. Mais une promenade vintage. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Vintage, Patrick, car à bord d'un véhicule qui fait partie de notre patrimoine national.
Oui, bienvenue chez Clément Henry, au domaine La Pagani, où nous attend Marguerite. La deux chevaux jaune comme le soleil du Lot, décapotée pour l'occasion après quelques conseils pour Patrick et Cathy. C'est le début de l'aventure pour Clément et ses passagers.
Quand on rentre, on fait attention parce qu'il faut mettre les fesses d'abord, mais après c'est très confortable.
Allez, c'est parti.
On va découvrir.
C'est une grande première aussi pour moi, hein. Jamais connu la douche.
La première étape nous amène sur les hauteurs depuis l'évêque avec une vue imprenable sur la cité médiévale.
La fortification donc a démarré sur l'éperon rocheux au 12e, 13e siècle. Et ensuite est arrivé le château Beauvilla. C'est le grand bâtiment là, que vous voyez en bas avec le pigeonnier et la tour pointue.
Sous nos yeux encore, les vignes et le Lot. C'est là que le vin était chargé dans des gabarres. Ces bateaux à fond plat remontaient jusqu'à Bordeaux où le Malbec, le cépage du Cahors, a débuté sa renommée.
Le Malbec est resté un vin tannique et qui permettait au Moyen-Âge de se conserver. Donc on est assez fiers en fait d'avoir contribué à l'essor un petit peu du vignoble français au travers des Bordelais, puisque eux à la base n'avaient que simplement un vin qu'on appelait le clairé en France, qui était un vin très très léger et qui voyageait beaucoup moins bien.
Marguerite nous conduit ensuite dans les ruelles étroites du vieux village.
On va rentrer
rentrer encore un peu plus dans les entrailles du village de Puy-l'Évêque.
On peut passer en deux chevaux.
En deux chevaux, ça passe, ouais. Ouais, ouais. On replonge dans le Moyen-Âge, quoi.
Le couple de touristes est ravi.
On serait jamais venu jusqu'ici.
Et puis avec les explications de Clément, c'est... ça vaudrait presque le coup de refaire un deuxième ou un troisième tour.
Nous voici de retour dans le domaine La Pagani, où la deux chevaux se faufilent entre les vignes.
La vigne est belle. Je lui ai coupé les cheveux dimanche. On appelle ça rogner, parce que sinon elle pousse dans tous les sens. Et on a des fils de relève qui permettent de tenir les vignes bien rangées.
Marguerite nous laisse enfin devant le chai, où entre les cuves en ciment et les fûts de chêne, est conçu le vin de l'exploitation.
On élève un vin un peu comme on élève un enfant. Je trouve la métaphore magnifique. Le vin choisit toujours ce qu'il a envie d'être. Il a sa propre identité. On a beau reproduire les mêmes gestes chaque année, le vin est différent.
Après l'explication, voici l'heure de la dégustation.
2016 est déjà vraiment excellent. Après, on va tester les autres, on va voir.
Il n'est pas rare, enfin, que Clément vous invite à revenir dans le chai pour célébrer ce plaisir du partage entre touristes et vignerons.
On aime bien pousser la chansonnette dans le chai où on est ici parce qu'il y a une bonne résonance. Des chansons de Michel Etcheverry. Mon beau pays s'appelle Occitanie.
J'ai dans le sang une pointe d'accent. On ne peut pas renier sa patrie.
Un été en France avec le charme de nos régions. Merci à nos correspondants, ça fait du bien. Merci ce matin à Patrick Hisson, RTL dans le Lot, dans le sud-ouest du territoire. Vous restez bien là dans un instant. La tension entre soignants vaccinés et non vaccinés. Immersion à suivre, immersion RTL dans un hôpital francilien. A tout de suite.
Stéphane Carpentier, RTL Matin jusqu'à
9h15. À 7h15, nous avions envie ce matin de nous arrêter sur cet été du vaccin et même d'aller plus loin. Emmanuel Macron impose la vaccination à tous les soignants. Un monde médical épuisé par 18 mois de crise sanitaire et anxieux de vivre une quatrième vague. Alors vont-ils se faire piquer? Allons voir sur le terrain, direction la Seine-Saint-Denis, près de Paris, l'hôpital Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Tous les lits sont occupés, mais il n'y a que 3 patients Covid en réa. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour Stéphane. Bonjour à tous.
Agathe, l'ambiance est ultra tendue sur place entre les soignants vaccinés et non vaccinés.
Oui, sur la 60aine de soignants que compte ce service réanimation, 15 ne sont pas vaccinés, des infirmiers et des aides-soignants. Car les médecins, comme le docteur Alexandre Avenel, ont eux tous reçu leurs 2 doses et tentent depuis de convaincre leurs collègues.
On s'est permis, nous les médecins, de prendre la parole en staff pour dire qu'on était quand même pas d'accord avec ça. On a eu des oppositions. Après, le problème, c'est que ça génère des conflits dans une situation qui est très très tendue psychologiquement. Donc il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on est rapidement en conflit à tout niveau.
Car depuis lundi soir et l'annonce de la vaccination obligatoire, l'ambiance s'est tendue dans le service. Keltoum, infirmière, a d'ailleurs mal vécu les propos du président.
Ça m'a fait quelque chose quand même. Le fait d'obliger encore les soignants de mettre la main à la pâte, depuis 1 an et demi en les dents, on était les héros du public au début. Maintenant, on est les bourreaux. Je trouve que c'est un peu dur quand même. C'est pas normal.
Vous pensez que ça peut être un peu la goutte d'eau, cette obligation de vaccination pour certains soignants qui sont déjà à bout?
Oui, tout à fait. Moi, je suis vaccinée depuis 7 mois. Par contre, je ne jette pas la pierre à mes collègues. Ils ont un choix personnel et je le respecte.
En fait, une grande partie des soignants du service semblent choqués que le vaccin leur soit imposé à eux, mais pas au reste de la population. Sandrine, aide-soignante.
Pourquoi que nous, quoi? Enfin, limite, c'était nous les meurtriers. Et c'est nous qui propageons le Covid, alors que pas du tout. Enfin, on fait notre travail. La première vague, on n'était pas vaccinés. Et on a fait notre travail quand même. C'est pas pour ça qu'on a contaminé les gens. Donc, c'est ou tout le monde ou personne. C'est pas que les soignants. C'est pas logique.
Alors, on entend bien, Agathe, que l'obligation vaccinale a cristallisé les positions de ces soignants en réanimation, déjà harassés par 1 an et demi de virus.
Oui, d'ailleurs, 6 personnels du service sont aujourd'hui en arrêt de travail. Tous sont épuisés et angoissent, comme Keltoum, à l'idée de revivre une quatrième vague.
On prend beaucoup, beaucoup sur nous, c'est important. Donc, on aime notre métier. En tout cas, moi, j'aime mon métier. Je suis encore là, je me suis pas arrêtée. Donc, voilà. Et là, pareil, donc on nous emmène au front. Quatrième vague veut dire patients encore un peu plus nombreux, prise en charge encore difficile, on a l'impression de ne pas s'en sortir.
Car même si aujourd'hui le virus circule encore peu, après plusieurs semaines passées sans voir aucun patient Covid, ce service réanimation compte désormais 3 malades du Covid, tous non vaccinés. Docteur Alexandre Avenel.
Là, on a eu l'entrée hier d'une dame, par exemple, jeune, 45 ans, anti-vax. Elle est obèse. Bon, là, elle a le virus Delta, elle est hospitalisée en réanimation. On va avoir une explosion épidémique des cas, des infections. Ça, c'est clair, c'est évident, il n'y a plus aucun doute là-dessus. La courbe déjà commence à remonter et elle va apporter des patients plus jeunes dans 10-14 jours.
Au 15 septembre, on dit que les soignants qui ne sont pas vaccinés ne pourront plus venir travailler, ne pourront plus être payés. Globalement, est-ce que votre service peut tenir dans ces conditions ?
Non, il faut être honnête. Vous voyez au mois de septembre en pleine crise et dire à un personnel qui n'est pas vacciné, tu ne viens pas. Alors on fait comment là ?
Tous très pessimistes, ces soignants espèrent simplement que la situation tiendra jusqu'à la fin de l'été pour que tous aient au moins pu prendre quelques jours de repos avant une éventuelle quatrième vague.
Agathe Landais au plus près de ses soignants de l'hôpital Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Merci à vous Agathe. Pour aller plus loin ce matin, on va se poser la question face à cette vaccination anti-Covid. Est-ce qu'on a les moyens de toucher tout le monde dans notre pays ? Bonjour Frédéric Bizet.
Bonjour, Stéphane Carpentier.
Merci d'être connecté, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Le président a appelé lundi soir à la mobilisation pour la vaccination avec des campagnes qui cibleront les plus jeunes, les plus récalcitrants et même une troisième dose pour ceux qui se sont fait vacciner au mois de janvier. Sur un plan matériel, Frédéric Bizet, est-ce que c'est faisable ?
Oui, pour la France et pour les pays développés, c'est tout à fait faisable. Nous avons déjà une capacité de production en Europe qui nous permet d'exporter, on a exporté à peu près 400 millions de doses. Donc l'Europe est le premier pays producteur de vaccins en temps normal. Là, les Chinois nous ont dépassés, mais en produisant un vaccin dont l'efficacité pourrait être remise en cause. Donc pour l'Europe, il n'y a pas de pénurie, si vous voulez, maintenant. On a dépassé ce stade-là.
Ça veut dire qu'on a réglé tous les problèmes de production d'acheminement des doses dans nos pays, hein ?
Oui, mais si vous voulez, vous avez deux visions très différentes, une vision nationale ou européenne et puis une vision internationale. Vous avez une pénurie très importante de vaccins à l'échelle mondiale et on sait bien que si on ne règle pas la question de la pandémie à l'échelle mondiale, on ne la règle pas définitivement. Mais voilà, vous avez les pays riches qui protègent d'abord leur population et on peut pas leur en reprocher. Et on voit bien que la problématique en France est une problématique de convaincre les plus réticents, alors que vous avez à moins d'1% de la population dans les pays pauvres qui ont été vaccinés. Donc vous voyez que vous avez des logiques totalement différentes.
Frédéric Bizet, on imagine que tous les efforts et que toutes les négociations sont concentrés sur les vaccins à ARN, ce qui inspire le plus confiance quand on voit les files d'attente et les queues depuis maintenant deux jours. Est-ce que Pfizer et Moderna vont pouvoir fournir ?
Encore une fois, oui pour les pays développés, oui pour la France. Pfizer est aujourd'hui en capacité de produire 3 milliards de doses par an, sur une capacité de 3 milliards de doses par an. Donc vous voyez que l'Union européenne en a réservé de façon ferme 900 millions de doses, juste pour la troisième dose, puisque nous avons déjà aujourd'hui une capacité, on a les stocks suffisants pour vacciner toute la population pour un premier tour de vaccination, et nous avons déjà pré-réservé la troisième dose. Donc, encore une fois, en Europe, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de disponibilité des vaccins, c'est une question de conviction des personnes et d'acceptation des personnes pour cette vaccination.
Puisque le monde est essentiel, la vaccination de toute la planète, est-ce que les pays pauvres reçoivent eux aussi des doses en ce moment ?
Très peu, parce que vous êtes dans une... D'abord, il y a eu un gros problème de production, si vous voulez, en Inde. Il y a eu un problème sur le plan quantitatif. Et l'Inde a fait face à une épidémie extrêmement forte. Donc l'Inde devait être le premier exportateur pour COVAX, c'est-à-dire cette organisation entre plusieurs institutions qui s'occupent de la distribution des vaccins dans les pays pauvres. Et donc COVAX a reçu à peu près 100 millions de doses, alors qu'il y a un milliard de doses de promis à COVAX. Mais il y a beaucoup de promesses, mais en fait, il y a assez peu de réalisations concrètes.
Ça veut dire que nous, les riches, on n'est pas très solidaires ?
Alors, on est solidaire pour notre peuple, mais le reste passe après. Et encore une fois, il faut faire attention. Enfin, il faut être assez prudent. C'est-à-dire que on peut pas reprocher encore une fois aux gouvernants de ne pas privilégier la protection de leur propre peuple. La question, elle est plus de savoir, par exemple, pour cette troisième dose, est-ce qu'il ne faut pas avoir une stratégie vaccinale pour le coup avec une réflexion internationale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pas protéger avant tout les plus fragiles pour cette troisième dose. Mais on ne sait pas quelle va être la durée de la protection. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations donc qui se font. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez il y a des discours qui sont très très humanistes, et puis il y a des actes qui sont d'abord avec une protection d'abord nationale.
Merci à vous, Frédéric Bizet. Merci pour la séance d'explication du matin. Économiste et spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Il est 7h23. La musique, c'est la priorité au cœur de cet été. La pépite arrive, à tout de suite. Hey, I just made...
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Il est l'heure de retrouver avec plaisir notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Quel choix ?
Alors on va sourire un peu ce matin avec une parodie d'une chanson de Michel Sardou. En 1967, après plusieurs essais sans succès, Sardou se faisait enfin remarquer avec les Ricains. Si les Américains n'avaient pas été là, on serait tous allemands à l'heure qu'il est. Voilà ce que nous disait Sardou dans son texte à l'origine écrit pour Alain Delon. Sardou, figurant, l'avait rencontré sur un tournage, sur le tournage de Paris brûle-t-il. Finalement, Delon n'avait pas voulu enregistrer les Ricains. Sardou l'a fait et sa carrière a décollé comme ça. Une dizaine d'années plus tard, alors que Sardou traçait sa route, Renaud apparaissait dans notre paysage musical. Il commençait à faire parler de lui avec ses jambes arquées et son premier album. Il avait déjà troqué sa casquette Gavroche pour un perfecto. Et Renaud débutait sur scène avec au programme ses chansons « Je suis une bande de jeunes »,« Adieu Minette »,« Hexagone »,« Laisse béton ». Et en fin de concert, notamment dans les MJC, il se payait la tête de Sardou en interprétant une parodie de la chanson « Les Ricains ». C'est notre pépite du jour. À l'âge de 24 ans, Renaud réécrivait à sa façon « Les Ricains ».
Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Vous savez aussi bien que moi qui a osé dire cette connerie. En fait, ça serait peut-être un peu mieux. On serait champion du monde de foot. On serait tous blonds aux yeux bleus. On boufferait des super choucroutes. Et si Jeanne d'Arc n'était pas là, nous serions tous des Britanniques. Et les francs-tireurs de l'IRA auraient à affronter nos flics. En fait, ça serait peut-être pas plus con. Mick Jagger serait peut-être mon voisin de palier. Et au tournoi des cinq nations, on serait peut-être pas toujours dernier.
Charles
Martel.
Et ça continue comme ça. Si Charles Martel n'était pas là, nous serions tous en dromadaire dans Paris. C'est saignant. C'est signé Renaud, contre-pied savoureux de la chanson de Sardou. C'est un document extrait des tout premiers enregistrements de Renaud sur scène. D'après les archives, ça a été en Belgique, puis à la MJC d'Argenteuil, près de Paris. Cette parodie n'est jamais sortie officiellement, seulement sur des disques pirates. Renaud m'avait confié un jour que ce qui l'agaçait le plus à l'époque chez Sardou, ce n'était pas de ne pas être d'accord avec lui, c'est qu'il chantait bien et que c'était très bien écrit.
Du vrai Renaud, la pépite musicale de ce matin avec Anthony Martin.
Michel Sardou n'était pas là. Le show business sentirait bon. C'est peut-être un peu dur ce que je dis là, mais j'ai pas de pitié pour les cons.
Dans la série, on continue de rire. Les grosses têtes, le rendez-vous à 15h30 pour 2h30 de plaisir. Le meilleur de la saison de Laurent Ruquier, un feu d'artifice, quoi.
Moi, j'adore ça, les feux d'artifice.
Ouais, c'est tellement beau.
Bah, pourquoi vous détestez ça?
Non, si je sais, d'abord, il y a trop de monde. Mais non, le bouquet final est une extase.
Il faut rester jusque-là.
Oh là là. Moi, j'aime bien le bouquet final.
Faut lever la tête, si faut avoir l'air intéressé. Généralement, ça foire.
Non, ça foire.
Attendez, on en fait un. On en fait un juste pour Isabelle. Ah, d'accord. Allez. On est là, il y a un feu d'artifice et nous, on fait les commentaires.
Et on attend.
Ah, j'ai cru.
Oh, la belle bleue. Et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on croit toujours que ça va être le bouquet.
Oui,
et puis non, il y en a encore un derrière. Ils ont mis de l'argent cette année à la mairie, on dit.
Non, mais oui, alors la préparation, quand c'est fait par des copains, la préparation est longue.
Ah,
moi,
ça,
je vois rien, parce que le temps que ça se prépare, je suis déjà bourré.
Ah, bah, si t'as, si t'as une toute petite fusée qui fait pchit, c'est pas.
Laurent Ruquier, ses grosses têtes, rendez-vous tout l'été, 15h30 pour le meilleur de la saison et en podcast sur l'appli RTL. 7h28, ma stagiaire est donc là, Marina.
C'est moche.
Le ciel un peu moins de pluie qu'hier quand même.
Mais oui, oui, hein, c'est déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on va vers le mieux. Alors on y va très très doucement parce qu'il y a encore pas mal d'averses là si vous êtes des Ardennes. Il pleut beaucoup aussi en Seine-et-Marne. Sur le reste de l'Île-de-France, ça s'est un peu calmé. Mais il y a encore beaucoup de pluie en Seine-et-Marne. Il pleut aussi au centre Val-de-Loire en descendant vers l'Auvergne et l'Occitanie. De part et d'autre, c'est assez nuageux. Il y a quand même quelques
quelques averses. Cet après-midi, ces pluies vont se décaler vers le nord-est et c'est là où on attend le plus de pluies, donc sur la région Grand Est. 5 départements sont en vigilance orange en raison des fortes pluies, du risque d'inondation. La Moselle, la Meuse, les Vosges, mais aussi la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin, situation à surveiller. Pour les autres régions, toujours des nuages, moins d'averses, mais quand même des averses pour avoir vraiment une belle amélioration. Direction la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire, où là on aura belles éclaircies cet après-midi. En Méditerranée, vous avez toujours du vent. Il y aura un peu plus de passages nuageux que les jours précédents. Il y a même des averses là en ce moment sur l'ouest de la Corse. Et puis côté température, alors là, on est vraiment digne d'un 14 octobre. On n'est pas du tout en juillet. 15 degrés à Langres seulement, 16 à Besançon. Besançon qui perd 6 degrés hein, par rapport à hier. 19 à Lille, 20 degrés à Clermont-Ferrand, 20 à Biarritz, 22 à Paris, 23 à Rennes. Ça remonte un peu sur l'ouest. 24 à Nantes, 25 au Mans. Et puis en Méditerranée, bon, ça reste chaud, mais moins chaud que ce que l'on a eu. 27 à Marseille ou encore à Bastia.
Tout ça le 14 juillet, nous sommes d'accord. Merci Marina. Bienvenue à tout le monde. Si vous ouvrez les yeux, c'est RTL. Il est
7h30. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, c'est le Tout Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 14 juillet.
Alors que le pass sanitaire entre en vigueur dans une semaine dans les lieux culturels, les salariés d'établissements recevant du public vont bénéficier d'un sursis pour pouvoir se faire vacciner. C'est l'annonce hier soir du ministre de la Santé, Olivier Véran, chez nos confrères de France 2.
S'agissant des salariés des établissements qui reçoivent du public, nous donnons un petit délai supplémentaire jusqu'au 30 août pour ces salariés pour qu'ils puissent être totalement vaccinés. C'est-à-dire qu'en pratique, les salariés de ces établissements recevant du public devront avoir reçu leur première dose de vaccination au plus tard le 1er août. Sans quoi, à compter du 30 août, ce sera un test tous les deux jours s'ils veulent continuer à travailler.
Olivier Véran qui annonce aussi que la vaccination sera désormais complète après une et non plus deux semaines suivant la deuxième injection. Mais pour autant, les tests PCR ont encore de beaux jours devant eux avec ceux qui n'ont pas encore reçu une dose, Sophie Jousselin.
Oui, si vous voulez aller au restaurant ou au cinéma, vous devrez encore vous soumettre à l'épreuve de l'écouvillon dans le nez pendant quelques semaines. Car à supposer que vous receviez votre première dose aujourd'hui ou demain, vous ne serez pas complètement vacciné avant le 11 ou le 12 août, car il faut au minimum 21 jours entre les deux doses de Pfizer ou Moderna, auxquelles il faut ajouter une semaine pour que la vaccination soit considérée comme totale. Mais estimez-vous heureux, car jusqu'à hier, et l'annonce faite par Olivier Véran, il fallait patienter 15 jours après la seconde dose pour être immunisé. Cependant, il y a un grain de sable qui peut enrayer cette belle mécanique, l'afflux des demandes depuis avant-hier soir. Conséquence, les délais pour obtenir un premier rendez-vous s'allongent. Il faut compter en moyenne 11 jours, ce qui repousse votre vaccination complète à la fin du mois d'août.
Les précisions de Sophie Jousselin.
Et puis autre annonce importante du ministre de la Santé, hier, les moins de 18 ans seront exemptés du pass sanitaire jusqu'au 30 août.
Les jeunes dont la vaccination a seulement démarré le mois dernier, pas besoin donc de présenter le sésame dès la semaine prochaine pour se rendre au cinéma par exemple. Un soulagement pour Jocelyn Bouissoui, le directeur général des cinémas CGR qui craignait des salles vides cet été.
C'est une super nouvelle, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir sauver des films hein, qui pour moi allaient peut-être partir comme Kaamelott, comme OSS 117 et j'espère que les distributeurs avec cette annonce vont les conserver à l'affiche. C'est une bonne, très bonne nouvelle. Il y a Fast and Furious qui sort mercredi. Il y aura OSS 117, Bac Nord, Eiffel. Il y a plein de films, des Français, des blockbusters. Il y avait vraiment des films pour un public jeune. Ben, ils vont être récompensés.
Jocelyn Bouissoui, le directeur général des cinémas CGR avec Pierre Collat.
L'actualité, c'est également le retour des blindés sur les Champs-Élysées.
Pour le défilé du 14 juillet, il était très restreint l'an dernier avec la pandémie. Dernière fête nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui s'est adressé hier aux militaires pendant la cérémonie en l'honneur des défilants et qui a fait une mise au point pour la première fois en revenant sur les tribunes signées par plusieurs gradés ces derniers mois.
Il n'est pas possible que des militaires s'exprimant comme tels laisse penser que l'institution qu'ils servent et qu'ils incarnent peut entrer dans le débat idéologique, dans l'enrôlement partisan, dans l'affrontement politique. Et défendre avec clarté ce que sont nos principes, nos valeurs, ces règles fondamentales, c'est défendre ce lien de confiance entre nos armées et la nation.
Emmanuel Macron qui va présider ce défilé militaire à partir de 10h tout à l'heure. On sera régulièrement dans RTL Matin avec nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées. Et notre invité à 8h20 tout à l'heure sera celui qui organise tout cela, le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. Direction le Tour de France.
RTL.
Vélo va, vélo vole.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
Hier, le champion d'Autriche, Patrick Konrad, s'est imposé en solitaire à Saint-Gaudens. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec plus de 5 minutes d'avance sur son dauphin Rigoberto Urán. Et c'est déjà l'heure de la 17e étape, la plus dure de cette grande boucle. 178 km entre le Muret et Saint-Lary-Soulan avec une arrivée au col du Portet. Et c'est Christian Laborde qui nous en parle le mieux.
Aujourd'hui, les Pyrénées, le mythique plat d'Adée et ce col sévère que l'on vient de rajouter, le col du Portet. Pour entrer dans la légende, le col du Portet aurait besoin d'un poulie d'or. Ce poulie d'or auquel le plat d'Adée doit tout. Le 15 juillet 1974, poulie d'or, âgé de 38 balais, attaque à la corde dans le premier virage ultra cambré du plat d'Adée, virage qui aujourd'hui porte son nom. Ni Eddy Merckx, ni les Espagnols, qui sont pourtant ici sur leur terrain, ne parviennent à prendre la roue violette du vélo violet de Marc Mercier, de Raymond Ier. C'est la folie, sur le bord de la route et dans les transistors. Il a attaqué Raymond, il a attaqué. Il monte en souplesse, il monte à donf, la casquette légèrement penchée, visière relevée, dans un mélange incroyable d'explosivité et de pépéritude. Il l'emporte au sommet et, dans la nuit, Saint-Lary est secoué par des explosions, des attentats. La police enquête. Interrogé sur ces explosions, Poulidor répond « Le seul explosif ici, c'est moi ».
Christian Laborde et sa fenêtre sur tour, départ de l'étape à 12h10, à suivre toutes les demi-heures sur RTL avant de retrouver Christophe Paco pour le Club Jalabert à 18h. Et puis jour de gloire, c'est le titre en une de l'équipe ce matin. Le 15 de France de rugby met fin à la malédiction et a enfin réussi à s'imposer en Australie après 30 ans de disette. Victoire hier à Melbourne, 28-26 face aux Wallabies. Il faut maintenant profiter des derniers instants dans le pays pour le sélectionneur Fabien Galthié.
La stratégie, c'est continuer à vivre, il reste 4 jours à vivre ensemble. Nous sommes le 13, demain c'est le 14 juillet, la fête nationale. Nous allons profiter de ce moment-là aussi tous ensemble. Et puis il nous restera ensuite 3 jours, 15, 16, 17, que nous souhaitons vivre de manière délicieuse. Donc la stratégie c'est profiter avec beaucoup de détermination de ces 4 jours délicieux qui nous attendent avant le dernier match de la série.
Le sélectionneur du 15 de France de rugby, Fabien Galthié, avec Quentin Vasselin. Et le troisième et dernier match du 15 pour sa tournée d'été en Australie, ce sera samedi à midi.
Hortense Crépin vous a informé, revient tout à l'heure à 8h30, bien sûr, l'appli RTL pour tout savoir quand vous le souhaitez. Vous allez cliquer. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Le pass sanitaire qui entre en action, énormément de réactions ce matin sur ce sujet dans les journaux et on va y revenir avec vous.
Hein. Oui, depuis quand une mesure pas claire est efficace? À quel moment autant de flottements dans les entreprises en contact avec le public permet d'obtenir un résultat massif de vaccination? On est passé dans la quatrième dimension en absurdie, comme on dit, et ça va nous permettre...
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
L'Anglais Co à 7h38 avec Anaïs Bouissou. C'était lundi soir, le président Macron annonçait l'extension du pass sanitaire dans une semaine pour les lieux de loisirs et culture. Et début août, dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite et transports. Depuis, Anaïs, c'est panique à tous les étages.
Hein. Oui, on connaissait le concept de destruction créatrice en économie. Eh bien, il faudra maintenant faire avec une nouvelle théorie, la panique efficace. Derrière le discours du président lundi soir, fermeté, verbe sans détour sur le pass sanitaire, les Français, tels un banc de sardines qui vire de bord pour éviter un danger, se sont rués sur les vaccins. Près de 2 millions de rendez-vous fixés en à peine 24 heures.
Du coup, c'est plutôt réussi. Hein.
Sur le résultat, oui, il n'y a pas de doute. Sauf que la panique, l'incertitude, le flou, au-delà de l'effet psychologique immédiat, il pèse aussi sur les professionnels, les chefs d'entreprise. C'est encore un flottement dans les organisations. Des risques pour la fréquentation, le chiffre d'affaires. Et si le cap semble clair, les modalités pratiques sont encore bourrées d'inconnus.
C'est vrai qu'on a l'impression que tout n'est pas vraiment bien au point pour appliquer ce pass sanitaire en vrai.
Non, ça ressemble au protocole sanitaire des tout débuts où il fallait avoir un doctorat en géométrie dans l'espace pour calculer des mètres carrés entre les clients. Ça ressemble au deuxième confinement, au débat philosophique entre les commerces essentiels, les non-essentiels et puis les rayons semi-ouverts, semi-fermés. Hier à Bercy, ce sont les hôteliers, la grande distribution, les centres de loisirs ministères qui se sont succédés par vagues de réunions. Un directeur de centre commercial qui fait les comptes sur RTL nous explique qu'entre les contrôles en plus et les clients en moins, c'est 50% de charges financières supplémentaires, 50% de chiffre d'affaires en moins. Les festivals, les cinémas s'inquiètent, demandent un délai. La SNCF indique pudiquement que l'ensemble des modalités pratiques seront communiquées dans les prochains jours. Façon de dire qu'on ne sait pas encore très bien comment ça va s'appliquer.
Et les salariés alors, au-delà des visiteurs, c'est pareil, c'est pas très clair?
Oui, pour les salariés au contact du public, l'annonce de base, c'est que début août, tout le monde devait être vacciné. Autant vous dire que les DRH s'en arrachaient déjà les cheveux. Finalement, un flottement plus tard, Olivier Véran a précisé qu'il ne fallait pas deux, mais au moins la première dose au 1er août. Et que peut-être, mais on ne sait pas encore, ce sera l'occasion aussi de tomber le masque.
Bon, mais Anaïs, ce nouveau concept de la panique efficace que vous nous inventez ce matin, est-ce qu'il est dangereux pour l'économie?
En général, les règles qui changent au gré des annonces politiques, c'est très mauvais pour les entreprises qui ont besoin d'une certaine stabilité pour investir et pour embaucher. Mais là, depuis un an, on est entré dans une nouvelle dimension. Et donc, au-delà du fait que tous les métiers au service du public angoissent et sont épuisés, ce qui se comprend, au-delà de ça, il faut bien admettre que jusqu'à présent, tous ces moments de flottement sont à peu près rentrés dans l'ordre. Avec des soutiens massifs de l'État, de l'activité partielle, une croissance dont la tendance est de vouloir repartir. Les dernières estimations fixent la croissance à 6% pour 2021. Voilà, donc sans tomber dans l'optimisme béat ni le pessimisme par principe, parions sur le fait qu'il y aura au moins au départ une certaine souplesse dans le pass sanitaire, qu'à quelques exceptions les entreprises vont s'y faire et qu'en cas de problème, les aides au secteur touché se poursuivront au-delà du mois d'août. C'est un pari pour l'avenir, c'est un pari pour tenir, en espérant que cela suffise à éviter une quatrième vague de virus et son nouveau lot de panique.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou, l'Angle Écho de ce mercredi matin. Évidemment, vous avez le podcast, vous allez sur l'appli RTL. Bon réveil à tous, il est 7h42 en ce jour férié. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Jean-Baptiste Djebari. Alors le pass sanitaire, ce sera donc le sésame à partir du 1er août. Mais beaucoup de questions pratiques se posent pour savoir comment on va pouvoir accéder au train et y rester. Alors on les pose, toutes ces questions, au ministre chargé des Transports.
Face à face à la radio dans un instant et avec les images sur notre site via l'appli RTL. A tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h43, bon réveil à vous. Benjamin Sportouche, votre invité ce matin, est le ministre chargé des Transports.
Bonjour Jean-Baptiste Djebari.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors le pass sanitaire, on l'a compris, sera obligatoire pour prendre le train et les autocars à partir donc du 1er août. Est-ce que vous confirmez cette date? C'est bien le 1er août?
Alors ce sera à compter de début août, en fonction de, des débats qui vont se nouer au Parlement. Nous présenterons le texte en Conseil des ministres le 19, pour un début de passage au Parlement le 21. Et donc ce sera certainement après le week-end du 1er août, qui comme vous le savez est un grand chassé-croisé. Mm-hmm. Et ce sera donc certainement dans la semaine du 2 août plutôt.
Ah, donc on aura quelques jours de tolérance, c'est ce que vous nous dites ce matin.
C'est ça dans les faits, puisque les débats risquent effectivement de durer un peu au Parlement. L'idée qui est poursuivie, elle est simple. Hein, c'est à la fois concilier la liberté de déplacement et inciter à la vaccination. On voit que sur l'incitation à la vaccination, les choses vont bon train, puisqu'on a déjà plus d'un million sept de personnes qui ont pris rendez-vous. Et sur la liberté de déplacement, peut-être simplement dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Nous préserverons le même nombre de trains pour tous les deux, notamment à la SNCF. Les conditions d'achat, de remboursement, d'annulation ne changent pas non plus. Ce qui change, c'est effectivement l'exigence de présenter un test ou un vaccin, et donc de ce pass à compter de début août pour les trains longue distance, c'est-à-dire les TGV, les intercités et les trains de nuit.
Oui, on va y revenir, mais donc vous nous dites que quoi, les contrôles vont commencer à partir du 5 août, par exemple?
On verra la date exacte en fonction de la date légale d'entrée en application du dispositif, mais oui, c'est plus probablement dans la semaine du 2 août que le 1er août, stricto sensu.
D'accord, parce que c'est un dimanche, en effet, et c'est un week-end de chassé-croisé, vous l'avez noté. Alors, est-ce que vous allez mettre très concrètement en place des portiques spéciaux pour flasher justement les QR codes des certificats vaccinaux à la SNCF? Est-ce que ça pourrait être les mêmes que les billets?
C'est ce qu'on est en train d'essayer d'organiser un peu sous deux angles. D'abord, effectivement, l'interopérabilité. Regardez si on peut, en quelque sorte, lier le pass sanitaire au billet. C'est la chose la plus simple à faire, mais ça nécessite un peu de temps. On est en train de regarder ça avec mon collègue Cédric Haut. Et puis, deuxièmement, regarder en fonction des configurations des gares, quelle est la façon la plus facile d'organiser les contrôles. On a un peu l'habitude de le faire finalement depuis qu'on s'est mis à contrôler l'attestation dans les gares il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc les gares et en général les grandes gares parisiennes, vous savez, bénéficient d'ores et déjà de portiques pour l'accès à un certain nombre de TGV. Donc là, c'est facile de le faire en gare en amont de la montée dans le train.
Donc il pourrait être utilisé ces portiques pour les passes.
Absolument. Alors pas forcément les portiques eux-mêmes, mais en tout cas l'endroit physique. Le filtre physique. Il y a d'autres gares dans lesquelles les choses se prêtent moins et on évalue aussi les possibilités d'avoir des contrôles à bord. Donc tout ça est actuellement débattu en lien avec les agents de la SNCF et la direction notamment.
Alors, c'est vrai que tout ça paraît un peu improvisé, Jean-Baptiste Djebbari. Même la SNCF dit que l'ensemble des modalités pratiques seront communiquées dans les prochains jours. Mais pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même assez important de savoir où ils vont.
On a commencé à discuter. J'ai réuni la SNCF, Air France, les opérateurs vendredi dernier. Nous avons eu une deuxième session de travail il y a maintenant deux jours. Et nous discutons depuis hier sur les modalités très pratiques pour bien périmétrer les seuils des personnels qui sont soumis au pass sanitaire. Vous savez que nous avons posé un délai, un peu de souplesse pour notamment les salariés qui opèrent dans les établissements publics. Et c'est donc au 30 août que le pass sera exigé pour eux.
D'accord.
Donc ça, c'est une souplesse côté entreprise. Et puis nous organisons les contrôles et les modalités sur le plan très pratique actuellement.
Alors, ça veut dire justement que Olivier Véran a dit hier soir qu'on pourra enlever le masque dans le train, notamment quand on aura un pass sanitaire. Quand pourra-t-on enlever ce masque dans les trains? Parce que c'est un peu double peine, j'allais dire, c'est le pass sanitaire plus le masque.
Non, je crois qu'il a dit dans les établissements recevant du public.
Oui. Alors, bon, c'est un peu différent. D'accord, mais le train peut faire partie aussi de cela. Qu'est-ce que vous
à ce stade, dans la mesure où jusqu'au 30 août, il y a de la souplesse pour notamment les contrôleurs de la SNCF. Il n'y aura pas donc, de passe exigée pour les contrôleurs de la SNCF. Jusqu'au 30 août, nous préserverons au moins le port du masque obligatoire dans les transports. C'est une mesure qui est bien comprise. C'est une mesure de sécurité sanitaire. Et le passe, c'est une mesure d'incitation au vaccin. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas tout à fait non plus sur les mêmes objectifs poursuivis. Donc, nous préserverons le port du masque à ce stade, au moins jusqu'au 30 août prochain.
Quelle est la proportion aujourd'hui d'agents SNCF vaccinés, vous le savez?
Non, je ne sais pas. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait des fichiers qui l'établissent. Mais je pense que c'est sensiblement la proportion connue dans la population. On voit bien qu'on a quoi 28 millions de personnes complètement vaccinées, un peu plus de 36 millions qui ont reçu une première dose. Et les chiffres accélèrent, évidemment.
Il y aurait des centres de vaccination destinés aux agents de la RATP
De la même façon qu'on l'a fait pour les centres de test à proximité des gares, pour à la fois les usagers du rail et les personnels. Oui, il y a la médecine du travail qui organise tout cela dans ces grandes entreprises publiques.
Vous dites aux voyageurs ce matin de prendre leur disposition pour arriver plus tôt, parce qu'il y aura des files d'attente forcément, même s'il y aura quelques jours, on l'a compris.
Alors d'abord, ils le font, mais oui, la réponse est plus on s'organise collectivement, mieux c'est.
Combien de temps avant?
Là, nous affichons les quais sur les trains longue distance 30 minutes avant. Historiquement, c'était 20 minutes. Donc 30 minutes avant, ça vous permet de cheminer vers le train, de passer les différents filtre
et 30 minutes avant.
En tout confort et en toute sérénité.
D'accord. Et quand on aura une correspondance, ça aussi c'est une question concrète, on devra à nouveau montrer son passe?
Ça dépend de la configuration de la correspondance, mais d'une manière générale, la réponse est plutôt oui en principe. Dans l'application des choses, parfois les correspondances ne repassent pas par les filtres des gares et les filtres ne seront pas systématiques dans toutes les gares à tout moment.
Ce sera des contrôles aléatoires plutôt.
On va organiser des contrôles massifs sur les grands flux, typiquement les grands départs en vacances, mais on parle de 500 000 personnes par jour. De la même façon que pendant le contrôle des attestations de plusieurs dizaines de millions de personnes, vous n'avez pas à tout moment des personnes qui contrôlaient en tout point et en tout lieu l'attestation. Mais il y avait bien des contrôles qui étaient pour partie massifs et localisés et pour partie aléatoires. Ce sera la logique poursuivie dans les prochains jours.
Donc il y aura aussi
dans les transports.
De l'aléatoire. Mais les forces de l'ordre vont-elles aider les contrôleurs de la SNCF justement à faire ce travail?
C'est ce qu'on est en train de discuter avec Gérald Darmanin. C'est ce qu'on a fait pour le contrôle notamment des documents sanitaires dans la période précédente, de confinement et de déconfinement. Donc ça aussi, c'est un sujet en débat. Vous savez que nous avons assermenté un certain nombre de personnels de la SNCF, de la RATP, pour contrôler par exemple le port du masque, pour le cas échéant infliger des amendes à ceux qui ne respectent pas la règle. Et donc nous sommes en d'organiser cela avec Gérald Darmanin.
Ça sera combien l'amende justement si on n'a pas son
passe sanitaire? Ça va être au débat.
135 euros?
Ça va être au débat du texte qui va être présenté.
Mais vous,
au
qu'est-ce que vous souhaitez? Vous êtes ministre en charge.
Je ne souhaite jamais qu'on mette des amendes.
Mais est-ce que ce sera minimum 135 euros?
En fait, l'idée, c'est quand même globalement qu'on présente le pass et que le contrôle soit bien fait et qu'il y ait le minimum de personnes dans les trains qui ne respectent pas l'exigence du pass. Après, pour compléter le dispositif, nous n'avons pas encore décidé quel était le montant de l'amende.
Vous n'avez pas encore décidé.
Le texte n'a pas été présenté le 19. Je sais que vous êtes impatient.
Les Français qui nous écoutent se disent, quand même, tout ça.
Les écoutent comprennent que le texte va être présenté le 19 juillet, qu'il y aura un débat parlementaire et que ça rentrera au moins dans 3 semaines. Vous voyez?
3 semaines. Avec un peu de tolérance, on l'a compris, pour la semaine du 3 août. C'est vous qui nous le confirmez, surtout. Pourquoi des contrôles dans les TGV et pas dans les TER et dans les Transiliens? Ça m'échappe, ça, Jean-Baptiste Dubarry. Qu'est-ce qui justifie la différence de traitement? La durée très jeune n'est pas une justification, car on ne passe pas plus de temps pour aller à Lille en TGV qu'en prenant un TER ou un Transilien.
Il faut une règle simple. Oui. Donc, on a regardé les trains longue distance dans lesquels vous avez essentiellement des personnes qui se déplacent pour des motifs de loisirs. C'est encore une fois une mesure d'incitation à la vaccination. Donc l'idée que c'était que ce soit simple, que ça incite. Et dans les transports du quotidien, vous avez essentiellement des gens qui vont travailler. Ensuite, sur les trains à longue distance, vous avez des réservations obligatoires en général. Donc on a capacité, par exemple, à lier le pass et le billet. Et par ailleurs, vous l'avez dit, vous avez des filtres qui sont physiquement organisés en général, notamment dans les grandes gares parisiennes, en amont de la montée du train. Donc pour toutes ces raisons pratiques et un peu de logique, en quelque sorte, nous avons choisi de centrer le dispositif sur TGV.
C'est vrai que la logique, elle ne paraît pas évidente, pour être très franc. Mais bon, c'est ce que vous
estimez. Admettons que c'est un point de désaccord entre nous.
D'accord. Alors, on va continuer. J'espère qu'il n'y aura pas de point de désaccord sur la question suivante. Parce qu'on se dit, à partir de quand il y aura des contrôles dans les autocars? Il y en a rien à voir dans les trains. Est-ce qu'il y aura des contrôles dans les autocars? Là, j'imagine
le
que
même
oui.
Principe, même principe. Donc les autocars qui font essentiellement des transports interrégionaux, donc là encore, essentiellement des déplacements pour des motifs de tourisme. J'ai eu hier un contact avec certains représentants autocaristes, notamment de ce qu'on appelle les cars Macron. Et là aussi, l'objectif, c'est à la fois d'avoir ces contrôles, ce dispositif en place à compter de début août, de préserver leur activité économique. Ils ont beaucoup souffert, les autocaristes.
Alors d'abord, qui pourra contrôler? Là aussi, les policiers pourront montrer à bord d'un autocar?
De la même façon, tous les agents assermentés, y compris les forces de l'ordre, peuvent le faire. L'objectif, vous savez qu'il y a des gares routières. C'est probablement là aussi, un peu de façon symétrique à ce qu'on fait dans les gares, qu'on pourra faire porter les contrôles. Et là aussi, ça impliquera certainement à la fois les agents des compagnies exploitantes et peut-être des forces de l'ordre. Tout ça est encore largement à définir.
Beaucoup de choses à définir. Les autocaristes seront sanctionnés s'ils ne font pas ces vérifications avant de faire monter les passagers.
La logique, c'est que par la loi, nous posons des règles que les exploitants, donc les autocaristes et la SNCF et Air France et les compagnies aériennes, bref, doivent respecter les règles et qu'il y a des sanctions pour les exploitants qui ne respectent pas les règles. C'est la logique qui prévaut depuis maintenant plusieurs mois.
Donc il y aura des sanctions. Et ces transporteurs, vous l'avez dit vous-même, s'inquiètent des annulations en cascade qui pourraient y avoir surtout sur les jeunes qui ne seront pas encore vaccinés, même s'il y aura une tolérance pour les 12-17 ans. Mais ils ont une crainte sur la perte d'activité. Est-ce qu'il y aura des compensations pour le mois d'août, notamment, quand ces sociétés-là n'auront pas le plein de passagers comme elles l'espéraient à cause du pass sanitaire? Est-ce qu'il y aura des compensations?
Bon, d'abord, en vérité, les compagnies n'ont pas le plein de passagers depuis maintenant de nombreux mois.
Mais là, ça allait remonter, justement. Elles étaient plutôt optimistes.
Par exemple, on est plutôt à 70%. En revanche, pour les réservations, par exemple, SNCF, on est quasiment au niveau de 2019. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de déréservation.
Il n'y a pas eu de déréservation, c'est ce que vous nous dites depuis les annonces d'Emmanuel Macron?
Il y a même plutôt une volonté de continuer à voyager. Il y a une volonté de s'informer, raison pour laquelle on a essayé de clarifier les choses le plus possible et encore ce matin, et notamment sur les modalités d'échange, de remboursement, d'annulation. Je le redis, elles sont inchangées. Et il y a une volonté, je crois, pour les Français de partir en vacances avec la SNCF et d'autres.
Mais pas de compensation pour l'instant envisagée pour les autocaristes?
Nous n'observons pas de perte de recettes passagers.
Alors, autre sujet dans l'actualité du jour, c'est le plan climat européen qui sera annoncé un 14 juillet par la Commission européenne. Elle présente aujourd'hui son plan climat. Alors, peut-être beau symbole, mais est-ce que ça sera pour tous, ce beau symbole? Parce que parmi les mesures envisagées, Jean-Baptiste Dubarry, il y a une taxe carbone pour les transports routiers. On parle de 5 centimes de plus par litre d'essence pour les ménages et une augmentation de la facture de 44% pour les ménages par an. Est-ce que la France est pour cette taxe carbone? Comme l'Allemagne l'est aujourd'hui.
Alors, la France est pour l'objectif de moins 55%, c'est-à-dire la France
d'émissions
est pour
de gaz à effet de serre
par rapport au niveau de 90, et donc qui nous met sur la trajectoire de 2%, et donc ce qui nous permet de remplir nos objectifs climatiques. Et c'est vraiment là-dessus que j'insiste ce matin. Et après, c'est les chemins qui sont empruntés par les différents secteurs. Donc, on voit bien que le chemin de la filière automobile, il est plutôt tracé. On a des constructeurs, notamment français, qui ont fait des annonces tout à fait conséquentes sur la part du véhicule, par exemple, pur électrique. La décarbonation dans l'aérien, elle aussi, est engagée. Nous avons investi beaucoup de moyens.
Pardon, vous ne répondez pas précisément à ce que vous êtes
maintenant. Sur le routier, nous sommes plutôt réservés pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le principe et le principal pour nous, c'est d'avoir de décarboner le transport routier. C'est donc de mettre à disposition des transporteurs routiers demain des camions à hydrogène, des camions électriques en dur, et puis de faire davantage de régulation sociale aussi. Donc, c'est un secteur qui a beaucoup souffert.
Plutôt réservé sur
plutôt
cette
réservé,
taxe.
Donc nous allons, parce qu'en fait, le document, il fait plusieurs milliers de pages.
C'est vrai.
Donc nous allons l'étudier, la proposition de la Commission, et le cas échéant, la débattre.
L'Union européenne devra donc annoncer aussi la fin de la vente des véhicules thermiques à partir de 2035 ou 2040. Très rapidement, l'électrique deviendrait alors la norme, sauf qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge électrique à disposition aujourd'hui.
Deux choses. D'abord, les émissions de transport à 50%, ce sont les véhicules individuels. Et un véhicule électrique, ça pollue 4 fois moins qu'un véhicule thermique. Donc il faut faire de l'électrique et les Français le font.
Combien
il faut des bornes.
Oui.
Aujourd'hui, nous avons plus de 700 000 bornes partout en France, essentiellement des bornes chez les particuliers et chez les entreprises. Nous avons plus de 45 000 bornes qui sont ouvertes au public.
Oui.
C'est nommé sur le podium européen avec l'Allemagne.
Il en faut 100 000, il y en aura bien 100 000 d'ici la fin de l'année comme prévu.
100 000 qui seront engagés ou déployés. Et en tout cas, ça va beaucoup plus vite que prévu. Nous avons fait 4 000 bornes l'an passé. Nous avons fait déjà 11 000 bornes cette année. Ça accélère. Et encore une fois, nous sommes parmi les meilleurs au niveau européen.
Toute dernière question, une taxe sur le kérosène, très redoutée par les compagnies aériennes. Elle sera appliquée en France et à partir de quand? Parce que ça risque de faire augmenter
encore
les billets.
Encore une fois, le sujet, c'est de le faire au niveau européen. Sinon, on s'ouvre à la concurrence internationale. Et le sujet pour nous, c'est de décarboner l'aviation. On a un grand plan de recherche industrielle pour ça.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Djebari. Bonne journée à vous.
Merci à tous les deux. Entretien qu'on retrouve évidemment au podcast sur l'appli RTL. Vous restez bien là. 7h56, dans un instant, les pourquoi de l'été de Cyprien Signy et une histoire de poils. A tout de suite.
RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy.
Les pourquoi de l'été sur RTL. Bonjour Cyprien Signy.
Bonjour à tous.
Vous répondez aux nombreuses interrogations, questions de nos auditeurs. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de mauvaises.
Non.
On peut parler de tout,
oui.
Comme ça.
Bonjour, c'est Marie-Caroline. Je ne donnerai pas mon âge, mais je voudrais savoir pourquoi j'ai l'impression que mes poils poussent plus vite l'été.
Alors, c'est pas le cas de vos cheveux. Hein.
Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas qu'une impression, c'est scientifiquement prouvé. Chez les hommes, par exemple, les poils du visage, la barbe, poussent 60% plus vite l'été que l'hiver. Et c'est valable aussi pour les poils, les jambes, les bras, les cheveux.
60%.
Ouais,
c'est
deux fois plus vite. Et même les ongles. Hein. Alors, pourquoi cet étrange phénomène de pousse plus rapide? Eh bien, la combinaison de deux facteurs. Chaleur et soleil. Alors d'abord, l'augmentation des températures, le mercure qui monte accroît notre circulation sanguine, le sang circule plus vite et alimente beaucoup plus les follicules pileux, vous savez, le bulbe du poil. Un peu comme la forêt amazonienne pendant la saison des pluies en fait. Hein. Le poil est plus abondamment nourri et donc il pousse plus vite. Arrive ensuite le facteur soleil, le facteur lumière. Les jours sont plus longs, vous êtes plus longtemps exposé à la lumière naturelle et donc aux UV, aux ultraviolets. Et cette exposition augmente la production de kératine. La kératine, vous savez, c'est la protéine fibreuse qui constitue le poil, mais aussi les cheveux et les ongles. Le résultat, vous obtenez le cocktail idéal pour favoriser la pousse du poil. Et vous le remarquez d'autant plus qu'il y a un facteur psychologique à pas exclure. L'été, vous faites plus attention à votre corps. Donc cette légère accélération de la pousse vous paraît encore plus importante. Alors sachez tout de même que le cycle de vie moyen d'un poil est de 100 jours. Après, il finit par disparaître. Que vous, mesdames, vous possédez en moyenne 16 800 poils sur les jambes et 600 au niveau des aisselles. Bizarrement, chez les hommes, personne n'a essayé de compter. Après, je vous rappelle que le rôle principal du poil est surtout de nous permettre de réguler la température du corps. Du coup, certes, l'été, les poils poussent plus vite, mais ils sont plus fins et moins denses que l'hiver, histoire de nous éviter d'avoir trop chaud. Comme quoi, finalement, les choses sont vraiment pas si mal faites.
Et comme quoi, il n'y a pas de petites questions. Les pourquoi de l'été, tous les matins avec Cyprien Signy. À demain.
À demain.
Marina, photo sur notre compte Twitter de Benoît qui est dans le Var à Sifour, photo d'un ciel très très bleu, très très beau.
Bah oui, mais il y en a qui ont de la chance, mais ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est vrai que dans le sud-est, on aura encore du soleil, mais quand même dans le sud-est, en Corse, là, on a des averses au sud de la Corse. Mais bon, globalement, c'est quand même pas mal en Méditerranée, Côte d'Azur, jusqu'aux les côtes de l'Occitanie, mais il y a du vent. En revanche, Mistral, Tramontane, du vent d'ouest aussi, tout ça souffle en rafale entre 60 et 70 km par heure. Pour les autres, des nuages, encore des averses, assez nombreuses là, des Ardennes à la Seine-et-Marne en descendant vers le Massif central. Cet après-midi, c'est sur le nord-est que l'on attend les pluies les plus soutenues, avec 5 départements en vigilance orange en raison d'un risque d'inondation à partir de cet après-midi et jusqu'à demain après-midi. Pour la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et le Bas-Rhin, l'amélioration, ce sera pour la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Pas d'averses et puis de belles éclaircies qui vont revenir dans l'après-midi. Côté température, 16 à 24 sur les trois quarts du pays, 26 à 27 en Méditerranée.
C'est complet, c'est signé Marina Giraudeau. Bon réveil tout le monde, c'est RTL, 8h du matin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
8h l'actualité avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et ce matin, les uniformes et les drapeaux sont de retour sur les Champs-Élysées.
Pour un défilé du 14 juillet, comme avant, ou presque, nous serons sur les champs dans un instant. Les premiers spectateurs sont déjà là. Et puis nous entendrons le témoignage émouvant d'une jeune veuve de militaire. Ça n'arrive pas qu'aux autres, dit-elle. Un peu de répit pour les jeunes. Ils ont finalement jusqu'au 30 août pour valider leur passe sanitaire. Mais pour certains, les vacances sont déjà gâchées. Vous allez l'entendre. À suivre également le paquet climat de l'Union européenne. En 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques. Et puis le Tour de France et une troisième étape pyrénéenne qui s'annonce dantesque.
RTL Matin.
Ce 14 juillet, c'est une fête, mais c'est aussi un hommage. Hommage aux soldats morts en opération. Les familles des soldats décédés dans l'année sont généralement invitées à assister au défilé sur les Champs-Élysées. Margot était présente, elle, l'année dernière. En 2019, elle a perdu son mari, le caporal-chef Guyot du 19e régiment du génie de Besançon. Il a succombé à un accident dans une mine en Guyane pendant une mission contre l'orpaillage. Margot s'est confiée à Brice du Génie pour RTL.
Pour laisser partir nos hommes ou nos femmes en mission, il faut se dire clairement que ça n'arrive qu'aux autres, qu'un décès militaire n'arrive qu'aux autres. Ça ne m'arrivera jamais.
Aujourd'hui, Margot Guyot a 27 ans. Il y a deux ans, son mari, le caporal-chef Cédric Guyot, se trouve en opération en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal. Dans la nuit du 17 juillet 2019, ce qui n'arrive qu'aux autres, comme elle dit, frappe à sa porte.
J'ai eu un appel téléphonique en pleine nuit. J'ai entendu un message vocal en me disant qu'il s'était passé quelque chose de grave avec mon mari. À ce moment-là, moi, je me suis dit qu'il y a eu un accident et qu'il fallait que j'aille en Guyane, sauf que je les ai vus arriver donc en TDF, donc la belle tenue militaire avec toutes les médailles qui pendent. Quand ils arrivent à 4 en tenue officielle, on comprend.
À 25 ans, mariée depuis 4 ans, Margot se retrouve veuve. Pourtant, cette opération en Guyane, même elle ne s'en était pas inquiétée.
Première réaction, ça a été, il a fait l'Afghanistan, il a fait le Kosovo, il a fait le Mali, et il meurt dans une simple Guyane. Après, qu'on découvre, la Guyane n'est pas simple. Aucune opération n'est simple, que ce soit un Sentinelle, que ce soit le Sénégal, que ce soit une Côte d'Ivoire, que ce soit une Guyane. Chaque mission a son lot de dangers et son risque.
Après le décès de son mari, Margot a été invitée en tant que veuve à Paris pour le 14 juillet. Elle, fille de militaire, rêvait de voir le défilé en vrai, mais pas dans ces conditions.
Rêve de petite fille, je suis issue d'une famille militaire, j'ai toujours voulu voir le défilé. C'est sûr, quand on est invité, on se sent un peu honoré, mais on sait qu'on n'y va pas, entre guillemets, pour les bonnes raisons. C'est sûr qu'on aurait toujours préféré le voir dans d'autres conditions que en étant la veuve d'un de nos décédés.
Fière que son mari ne soit pas oublié, mais rongée par le chagrin, Margot traverse les cérémonies et les hommages. Dans ses épreuves, elle se dit bien accompagnée par les militaires, des petites attentions et la proposition d'un emploi qu'elle occupe depuis un an et demi au sein des armées.
Un témoignage recueilli pour RTL par Brice du Génie.
L'armée qui va parader à nouveau, Isabelle, ce matin sur les Champs-Élysées.
Oui, c'est le grand retour du défilé traditionnel. L'an dernier, on avait dû se contenter d'une cérémonie restreinte, place de la Concorde. Cette année, retour à la normale, ou presque, car pour assister au spectacle, il faut tout de même être muni d'un pass sanitaire et porter le masque. Dans les tribunes, la jauge est fixée à 10 000 personnes au lieu de 25 000. Alors, les places sont chères, certains sont arrivés tôt pour être sûr de ne rien rater. Vincent Serrano, vous êtes sur les champs pour RTL avec une famille qui vient du Tarn.
Oui, arrivé ici à 6h du matin pour passer les contrôles sans encombre et je peux vous dire qu'ils ne veulent rater aucune miette de ce défilé. Ils ont les mains accrochées aux barrières. Nathalie, toute cette façon de faire ce matin, il y a une raison à ça, c'est que votre fille défile.
C'est ça, ma fille défile avec l'école polytechnique.
Son prénom ?
Julie. Et je suis très fière et je suis très émue parce qu'on était stressés avec les jauges, toutes les restrictions qui ont été mises en place. Alors on était là très tôt pour être les premiers aux barrières.
Très émue, hein, je vous ai vu prendre un selfie avec elle, vous aviez la main qui tremblait.
Oui, je suis très émue.
Et son mari, le papa Jérôme, avec le drapeau tricolore noué autour des épaules, c'est une première pour votre fille, mais c'est une première aussi pour vous.
Oui, c'est ça. C'est mon premier défilé à Paris.
Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez de voir au-delà de votre fille ?
Tout le défilé, quoi. L'ambiance, quoi.
Ouais. Il y a votre fille, justement, qui est là avant d'aller défiler. Ils sont stressés, vos parents, comme ça, tout le temps ?
Oui, tout le temps. Tout le temps. C'est une constante chez eux.
Va falloir les rassurer. Je ne sais pas si vous pourrez leur faire un petit coucou quand vous défilerez sur les champs.
Non, vaut mieux pas. Je vais perdre le pas, sinon.
Ça marche. Bon, écoutez, vous avez le temps de reprendre vos esprits. Il y a déjà, vous le disiez, Isabelle, beaucoup de monde autour de ces Champs-Élysées. Il fallait vraiment venir très tôt. On a déjà plusieurs milliers de personnes le long de l'avenue.
Merci, Vincent Serrano, depuis les Champs-Élysées, où on va retrouver dans 10 minutes le général général Christophe Abad. Il est le gouverneur militaire de Paris et c'est lui le chef organisateur de ce grand défilé militaire. Le gouvernement avait promis de la souplesse dans l'extension du pass sanitaire. Isabelle, promesse tenue.
Oui, dès hier soir, Olivier Véran a annoncé plusieurs aménagements. D'abord à destination des jeunes. Les 12-17 ans sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août, histoire de ne pas leur gâcher les vacances. Même délai pour les salariés des établissements qui reçoivent du public, les employés des bars et des restaurants, les vendeurs dans les centres commerciaux. Et puis, on pourra valider son pass plus rapidement qu'aujourd'hui, une semaine plus tôt exactement. Avec tout cela, dans le meilleur des cas, on peut espérer obtenir un pass sanitaire à la mi-août. Trop tard pour Marie-Christine et ses deux ados, Samuel Goldschmidt.
Après le discours d'Emmanuel Macron et malgré les précisions d'Olivier Véran, la décision de Marie-Christine a été radicale.
J'ai décidé de tout arrêter parce que je ne suis pas vaccinée et de toute façon, je n'ai plus le temps de me faire vacciner pour le mois d'août par rapport aux enfants. J'avais l'intention de découvrir l'Auvergne, faire plein de belles choses. Et puis, ben, si c'est pour être bloqué, à ne pas pouvoir faire de resto, à ne pas pouvoir faire de sortie, à ne pas pouvoir... on va faire appart et puis voilà, chez nous. Et puis, on fera ce qu'on pourra.
Avec toutes les annonces qui se succèdent, elle craint maintenant aussi pour les autres vacances de ses deux adolescents.
C'est ça, ils partent en colo le 25 juillet et ils reviennent le 8 août. Donc on est en plein milieu de tout ça. Bah, je sais déjà qu'ils ont un test PCR à faire, ça c'était convenu à l'avance et il n'y a pas de souci, ça sera fait. Mais maintenant, j'attends de voir si je vais être contactée ou pas par la colo pour d'autres informations.
Il y avait enfin une invitation à un mariage, en suspens là aussi. L'été à peine commencé s'annonce aussi morose que la météo.
Reportage RTL signé Samuel Goldschmidt. La mise en œuvre du pass sanitaire s'annonce délicate par endroits, dans les restaurants, dans les gares et les aéroports. Il va falloir contrôler à tout va, mais heureusement, pour ça aussi, il existe une application, appli mise à disposition par le gouvernement, Sophie Josselin.
Oui, elle s'appelle TagVérif. Elle se télécharge et s'installe sur n'importe quel smartphone, Apple ou Android. L'application est très simple d'utilisation. Au lancement, elle propose uniquement de scanner le QR code à contrôler. Immédiatement, sur l'écran s'affiche soit le mot « valide » écrit en vert, soit « non valide » en rouge et c'est tout. Le commerçant, le restaurateur qui contrôle votre passe sanitaire ne saura pas si vous avez été vacciné ou si vous avez été testé négatif ou si vous avez déjà été malade. Mais il est sûr, quand le mot « valide » s'affiche, qu'il peut vous laisser entrer dans son établissement. Vous êtes en règle. L'opération ne dure qu'une poignée de secondes et l'application ne conserve aucune trace de votre QR code.
Explication RTL de Sophie Jousselin. Notez qu'en Haute-Corse, de nouvelles restrictions s'appliquent dès aujourd'hui et jusqu'au 1er août en Balagne et à Saint-Florent. Les bars et les restaurants doivent fermer à 23h et respecter une jauge de 50% en intérieur comme en extérieur. Les feux d'artifice du 14 juillet sont interdits.
8h08, vous restez bien là. Isabelle Choquet revient dans un instant vous dire que le plan climat de l'Europe, eh bien ça pourrait nous coûter cher. A tout de suite.
RTL Matin.
Et Isabelle Choquet, la suite du journal avec l'Europe qui passe au vert. Bruxelles dévoile aujourd'hui des propositions pour accélérer la transition écologique de l'Union.
Oui, le pilier du projet, c'est un élargissement très net du marché du carbone européen. Bruxelles veut généraliser les taxes, ce qui provoque déjà pas mal de crispations. Il est question aussi d'imposer une taxe kérosène dans l'aérien. Et puis, la bonne vieille voiture thermique, c'est terminé. Elle doit disparaître en 2035, Christophe Bourou.
Concrètement, dès 2035, les constructeurs pourraient être obligés de proposer que des véhicules électrique et du 100%, autrement dit pas d'hybride ou d'hybride rechargeable. De toute façon, les normes vont tellement se durcir d'ici là qu'il sera impossible de vendre un modèle diesel ou essence. Mesure déjà anticipée par certains constructeurs, c'est le cas de Volvo, comme l'explique Yves Pasquier-Devigne, le patron de la marque en France.
Volvo s'est préparé depuis longtemps, puisque sur certaines gammes, nous ne fabriquons déjà plus de moteurs diesel. Et l'engagement est de dire qu'en 2030, nous serons 100% électriques et tout notre écosystème est orienté vers ça.
Et au-delà des constructeurs, le calendrier s'annonce compliqué à mettre en œuvre selon les pays, car si la Norvège est prête, côté français, on plaide pour une transition en douceur, avec la poursuite des hybrides rechargeables au-delà de 2035. Enfin, obstacle de taille, la recharge, un domaine où la France accuse un sérieux retard. En effet, seulement 33 000 bornes sont installées sur les 100 000 prévues d'ici à la fin de l'année.
Christophe Bourreau, spécialiste auto d'RTL. En Seine-et-Marne, l'homme qui a tué un jeune vendeur de téléphone dans un centre commercial de Clé-Souilly a été mis en examen à Écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. Tout est parti d'une facture qu'il n'arrivait pas à se faire rembourser. Théo est donc mort pour une somme de 93 euros. La France appelle tous ses ressortissants à quitter l'Afghanistan au plus vite. La situation sécuritaire évolue rapidement. Les talibans progressent partout avec le retrait des forces américaines. Le gouvernement met en place un vol spécial samedi matin au départ de Kaboul afin de rapatrier la communauté française. Ensuite, aucun vol ne pourra être affrété. La sécurité ne sera plus garantie.
Le cyclisme et le Tour de France avec une nouvelle étape de montagne aujourd'hui. Peut-être la plus difficile de cette grande boucle.
178 km à travers les Pyrénées entre Muret et Saint-Lary-Soulan avec l'arrivée au col du Porté, classé hors catégorie. On annonce en plus une météo détestable entre 5 et 10 degrés à l'arrivée à plus de 2000 mètres. Le Slovène Tadej Pogacar est toujours en jaune.
Tour de France 2021.
Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Avec Christian Olivier.
Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
On aura le temps à 10h de parler de l'étape du jour, la troisième journée pyrénéenne, Laurent Jalabert. Mais un petit moment de partage dans ce carnet de route pour revenir, puisque nous sommes le 14 juillet, sur un 14 juillet 1995, Laurent Jalabert. Et oui, notre consultant qui avait remporté cette étape.
C'est vrai, c'est un effet marquant de ma carrière. Cette journée a été magnifique. Le 14 juillet, quand on est sur le tour, c'est toujours une journée spéciale pour les Français. On a envie d'être devant. Après 10 km de course à peine, me voilà déjà échappé. J'ai entendu ensuite le renfort de quelques coéquipiers. C'était une journée un peu folle parce que le maillot jaune Indurain était en difficulté sur un terrain accidenté. Et voilà, j'ai eu une journée magnifique de partage avec le public qui m'encourageait. Pendant longtemps, j'étais virtuel maillot jaune. Et au bout du compte, l'arrivée au sommet de la montée de la Croix-Neuve, qui a été rebaptisée depuis Monte Jalabert pour la circonstance. Et me concernant, c'est vrai qu'à chaque fois que le tour arrive sur une étape le 14 juillet, j'ai en mémoire ces souvenirs parfaitement intacts. Mende en 1995, c'était la plus belle, mais n'oubliez pas que j'ai aussi gagné un 14 juillet à Colmar, c'était en 2001.
Allez, souvenir, on revient au 14 juillet 2021, ce sera pour l'étape du jour, présentation à 10h, Laurent Jalabert. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Laurent Jalabert avec Christian Olivier et le tour, c'est toutes les demi-heures, bien sûr, sur RTL.
Merci Isabelle, à tout à l'heure pour l'actualité. Les Pyrénées, le ciel, ça va donner quoi, Marina?
Frais, comme l'a dit Isabelle, des nuages, un petit risque d'averse et surtout, il y a encore de la neige au-dessus de 2400 mètres sur les Pyrénées, sur les versants nord. C'est pas exceptionnel, mais c'est vous dire le temps qu'on a en ce moment.
Bon courage au peloton, 8h13.
RTL. Présidentielle. Le jour où j'ai dit oui.
À 9 mois de la présidentielle 2022, RTL vous propose donc tous les mercredis de cet été des rencontres et des confidences d'anciens candidats à l'Élysée. Comment ont-ils franchi cette étape, cette déclaration de candidature décisive dans le lancement d'une campagne? Première confession, celle de Lionel Jospin, deux fois candidat. L'ancien Premier ministre socialiste parle rarement de lui, mais il a ouvert sa porte à RTL et à Marie-Bénédicte Allaire en particulier.
Pour Lionel Jospin, tout commence ce dimanche 11 décembre 1994. Devant la télévision.
Je suis seul avec Sylviane Gazinski, mon épouse.
Ce soir-là, le socialiste Jacques Delors, le favori des sondages, est l'invité très attendu de 7 sur 7, l'émission d'Anne Sinclair sur TF1.
J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République.
27 ans après, dans sa jolie petite maison d'Ars-en-Ré, Lionel Jospin se souvient.
Nous n'abordons que timidement la suite. Nous sommes dans la surprise.
Contrairement à d'autres, il n'a pas fait de l'Élysée son but ultime.
Non. Jamais je n'avais affirmé cette prétention, car je considérais que pour un tel rendez-vous avec le peuple, il fallait être en situation. Je m'apprêtais à faire campagne, comme d'autres, pour Jacques Delors.
À l'époque, l'ancien premier secrétaire est une planète isolée de la constellation socialiste, comme l'écrit le journal Libération. Il ne fait plus partie de la direction du PS, et pourtant, ce dimanche de décembre, une petite mécanique intérieure s'enclenche.
À ce moment-là, je me dis que une porte s'ouvre, mais pour qui, je ne le savais pas encore.
Les socialistes ne se bousculent pas pour reprendre le flambeau, mais de grands noms du parti, comme Pierre Mauroy ou Michel Rocard, pressent Lionel Jospin de se porter candidat.
Et les choses ensuite mûrissent. Je dois d'abord vaincre des hésitations.
En effet, 2 ans plus tôt, il a été battu aux législatives en Haute-Garonne. La présidentielle, c'est encore une autre affaire.
Il ne peut pas s'agir pour les socialistes d'une candidature de témoignage. Il s'agit vraiment d'aller, sinon pour gagner, parce que c'est très difficile en 1995, mais au moins pour faire un très bon résultat.
D'un autre côté, c'est lui que François Mitterrand a choisi comme successeur à la tête du PS. Mitterrandiste, mais pas mitterrandolâtre, il a éprouvé l'exercice de l'État comme ministre de l'Éducation et il a contribué au rapprochement de la gauche et des écologistes. Alors, peu à peu, ses hésitations s'estompent.
Et le 31 décembre, je suis pas loin de Paris, chez des amis pour le réveillon. Deux couples avec Sylviane. L'un est un imprimeur, un ancien résistant, plutôt gaulliste de tradition, s'occupe pas vraiment de politique. L'autre est un autre ami de sensibilité de gauche, mais pas encarté, comme on dit. Et on va se promener dans la campagne. Et je leur dis, voilà, je m'apprête à prendre une décision, je voudrais avoir votre sentiment. Donc, et leur réaction plutôt positive, le fait qu'ils trouvent que ça fait sens, me parle, parce que c'est quatre personnes, deux couples que j'estime.
Les encouragements de ses amis le confortent. Il faut maintenant se lancer hors du cercle des intimes. Lionel Jospin va voir Henri Emmanuelli. Le premier secrétaire du PS a bien l'intention d'être candidat lui aussi. Le voici face à un compétiteur.
Je lui ai annoncé bien sûr ma décision, je ne vais pas lui faire la surprise, il est le premier dirigeant du PS. Il me demande d'attendre, je lui dis non, ma décision est prise, je viens parler devant le bureau exécutif et je dis que, à mes yeux, seuls les adhérents du Parti Socialiste pourront trancher.
Le premier secrétaire par favori, mais les militants tranchent, ils choisissent Lionel Jospin par 65% des voix. Un formidable élan qui portera toute sa campagne de 1995. Rien à voir avec sa seconde candidature, celle de 2002, prélude à une campagne maudite. Mais celle-ci, Lionel Jospin ne veut plus l'évoquer.
En 2002, bien sûr, les choses ne se sont pas présentées de la même manière parce que c'était un peu dans la logique que je sois le candidat à l'élection présidentielle après ces 5 ans de gouvernement. Simplement, pour qu'on puisse gagner, il aurait fallu que la majorité plurielle reste ensemble, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que les candidatures devant lesquelles on hésite peuvent être finalement plus fécondes que les candidatures qui paraissent s'imposer d'elles-mêmes. Mais ça, c'est la vie.
Les confidences des candidats à l'Élysée à 9 mois de la présidentielle 2022. Ce sera donc tous les mercredis matins sur RTL pendant cet été. 8h18, le 14 juillet, son défilé militaire, c'est le grand retour du Barnum. C'est organisé par le général Abad, le gouverneur militaire de Paris. Il est avec nous juste après ça.
D'ici à 9h, vous serez peut-être l'un des gagnants du grand jeu RTL de l'été. Pour vous inscrire, il vous suffit d'appeler le 3210, 50 centimes par minute, ou d'envoyer RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. À gagner 1000 euros cash, mais également des smartphones, des tablettes, des week-ends thalasso ou des vacances en famille. Bonne chance à vous.
Stéphane Carpentier.
RTL Matin jusqu'à 9h15.
8h19, c'est donc le retour du traditionnel défilé du 14 juillet, dont les Français d'ailleurs sont très friands. Je dis retour parce que l'an dernier, en raison de la pandémie, il n'y avait eu qu'une cérémonie restreinte sur la place de la Concorde. Pas de défilé, c'était d'ailleurs une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est dans une grosse heure et demie maintenant. Le gouverneur militaire de Paris est donc avec nous sur RTL. Bonjour Général Abad.
Bonjour.
C'est vous qui avez orchestré tout cela d'ailleurs. Est-ce que d'abord c'est une joie, un soulagement de pouvoir offrir tout à l'heure cette tradition?
Oui, c'est une grande joie, une grande fierté de pouvoir renouer avec un défilé traditionnel et à titre personnel, bien sûr, un grand plaisir, une grande satisfaction et un grand honneur.
C'est une première pour vous, si je ne me trompe pas, Général, un premier défilé en tant que chef de l'organisation. Est-ce qu'il y a une petite pression à titre personnel ?
Non, c'est en effet la première fois que j'organise en tant que gouverneur militaire de Paris cet événement majeur pour les Français. Il n'y a pas de pression parce que c'est vraiment un travail collectif. Et je suis entouré de personnel particulièrement compétent et motivé, donc tout cela me porte.
Alors le virus est toujours là, ça veut dire général une jauge réduite, le pass sanitaire obligatoire pour tous ceux qui veulent être là sur place ce mercredi.
En effet, les gens qui auront l'insigne honneur de participer dans les tribunes respecteront les règles qui sont en vigueur, que vous avez rappelées, avec des jauges cette année. Les tribunes seront affectées d'une jauge de 50%.
Ça veut dire combien de spectateurs potentiels pour voir les troupes sur les champs ?
Un volume de 10 000 à 11 000 personnes dans les tribunes, là où une année classique, nous sommes autour de 25 000. Mmh.
Les militaires du défilé, mon général, sont suivis, sont testés, sont vaccinés. Comment s'est géré l'état de santé de vos troupes ?
Il y a 5 000 défilants sur les Champs-Élysées ce matin. Et nous avons fait en sorte, nous avons pris deux mesures simples et qui sont conformes là aussi aux règles en vigueur. La première, c'est une campagne de vaccination massive. De l'ordre de 90% des gens qui ont rejoint Paris la semaine dernière sont vaccinés. Et les 10% restants ont connu un test PCR dans les 72 heures avant de monter à Paris. Et puis la deuxième mesure, c'est une mesure de cloisonnement, c'est-à-dire qu'en termes d'hébergement, nous avons fait en sorte de respecter des bulles homogènes. Et depuis une semaine, tout se passe bien, nous n'avons pas eu de cas positifs. Et donc nous sommes le jour de l'événement, donc il n'y a pas de problème sur le plan sanitaire, nous avons pris toutes les dispositions.
Alors ce défilé, il va mobiliser 4400 militaires à pied, 73 avions, des hélicoptères, 221 véhicules, 200 chevaux de la garde républicaine. Je suis très proche de la vérité, mon général, là.
Vous êtes exactement sur les chiffres des effectifs qui vont défiler dans quelques minutes.
Les répétitions, est-ce qu'elles se sont bien passées? Parce que c'est toujours très très important. Tout est réglé à la minute, on imagine que c'est un vrai puzzle.
C'est surtout une vraie opération militaire, parce que tout est réglé, minuté, toute la coordination, le travail de coordination est très important. J'ai autour de moi des gens qui sont vraiment des experts et qui sont très, très performants dans ce domaine. Et c'est tout l'intérêt de faire venir les gens une semaine avant pour répéter sans cesse et faire en sorte que nous soyons prêts maintenant dans quelques minutes.
Est-ce qu'il y a des troupes à l'honneur en particulier à l'occasion de ce défilé-là de 2021 ?
Oui, il y a plusieurs troupes qui, à l'occasion d'anniversaires particuliers de leur unité, je pense au 75e anniversaire des forces aériennes françaises libres par exemple, qui vont être mises à l'honneur. Il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer là, mais peut-être citer devant nos auditeurs la présence d'un détachement de troupes de la Task Force Takuba, qui est une force européenne de 8 pays dont la France, qui est engagée au Mali depuis la fin de l'année 2020 et qui est montée en puissance lors de ce printemps et qui contribue aux côtés de la France à la lutte contre le terrorisme.
Général Abad, le président Macron a souhaité plus que jamais ce défilé pour saluer tous ceux qui nous défendent en France et ailleurs. C'est vraiment ça le message aussi qui est porté ?
Oui, tout à fait. Le défilé, un défilé militaire sur les Champs-Élysées, ça peut être lu de façon différente. C'est bien sûr une parade militaire où nos soldats se montrent sous leur jour les meilleurs, dans une relation singulière et particulière avec les Français. C'est aussi une démonstration de force, puisque nous montons des matériels modernes, une volonté, la force d'une armée qui est une armée d'emploi, d'un pays démocratique, qui défend la liberté et ses valeurs. Et c'est aussi le moyen, ce jour de concorde nationale, de commémorer l'engagement de tous nos militaires. Encore ce matin, encore ce jour, 14 juillet, nous avons 30 000 militaires qui sont en posture opérationnelle. Et puis c'est aussi le moyen de commémorer et d'avoir une pensée pour nos blessés et nos camarades décédés en opération.
Vous nous disiez tout à l'heure que tout cela est réglé à la minute, ce défilé, voire à la seconde près. Hein. Vous avez une idée de comment vous allez le vivre, vous, pour cette première, en direct, sereinement ? Est-ce que vous serez dans la crainte qu'il y ait une fausse note ou un couac ? Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver.
Non, pas de crainte particulière. Je pense que je serai, bien sûr, dans la concentration extrême, mais aussi, comme je l'ai dit toute la semaine aux soldats qui vont défiler, de prendre du plaisir. Voilà, c'est un moment fort d'une carrière. On défile pas souvent quand on est militaire, mais encore même quand on est militaire expérimenté. Donc le sentiment qui m'anime à quelques minutes des défilés, c'est beaucoup de fierté pour le travail qui a été fait, pour ce que nous allons représenter. Les 5000 militaires représentent l'ensemble de la communauté militaire, ses valeurs, son engagement. Et à titre personnel, la certitude que ce défilé va se passer de manière tout à fait correcte et va répondre aux attentes des Français ce jour de concours national.
Tiens, on se demande comment on est choisi justement pour défiler ?
Alors, je vous citais tout à l'heure des anniversaires, oui, qui renvoient au choix de telle ou telle unité. Et puis après, c'est tout simplement l'activité opérationnelle, l'agenda de chacune des unités, de chacune des armées, directions et services, qui fait que la disponibilité de tel ou tel est plus favorable. Vous comprenez que, par exemple, un régiment en opération ne peut pas mettre à disposition des troupes pour défiler, par exemple.
Merci, Général Abad, d'avoir été avec nous sur RTL avant votre première, le retour du défilé du 14 juillet. Le président Macron sera sur place tout à l'heure à 10h. Le gouverneur qui nous disait que les troupes arrivent sur zone. On va aller vérifier sur le terrain. Notre reporter Julien Fautra nous fait vivre l'événement de l'intérieur. Julien, vous êtes depuis l'aube dans un char, dans un blindé ultra moderne, vous, hein?
Ouais, notre équipage est parti de Brétigny-sur-Orge, de la base militaire, à 5h pile, hein, pas d'écart possible sur les horaires. C'est pas banal voir passer des véhicules de guerre comme le Griffon dans lequel je me trouve, dans les rues, parfois dans des rues un peu étroites. Puis l'autoroute A6, le périphérique parisien, klaxonné par les conducteurs autour, très sympa. D'autant qu'une colonne, Stéphane, une colonne de 16 Griffons, 8 mètres de long chacun, 3 mètres de haut, qui entre dans Paris, ça fait un drôle d'effet. Nous sommes garés en haut de l'avenue des Champs-Élysées, près de l'Arc de Triomphe, et nous ne bougerons plus maintenant que pour le défilé devant le chef de l'État. Tout se met encore en place tout autour. Les chars sur roues, les AMX de combat, un Charles Leclerc, le prestigieux Charles Leclerc qui lui est sur chenille, vient de passer devant moi. Beaucoup d'agitation pour régler le défilé au millimètre. Les derniers détails, vous en parliez, que les véhicules puissent démarrer à la seconde près et rouler à 15 km/h. C'est l'allure pour tous les blindés. Et on va attendre notre passage, le passage de ces bijoux technologiques que sont les Griffons, prévu aux alentours de 11h30 environ.
Voilà, on va vous suivre, Julien, bien sûr. Vincent Serrano, nos reporters sur les Champs-Élysées. Brice Dugénie du service étranger de RTL. Ils vont vous faire vivre ce défilé comme si vous y étiez en ce 14 juillet, jour de fête nationale. 8h27, c'est jour férié, mais il y a quand même les grosses têtes. A tout de suite.
RTL. Toujours avec vous.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Elles sont notre remède à la morosité, les grosses têtes sur RTL dès 15h30 cet après-midi avec le meilleur de la saison de Laurent Ruquier et par exemple Ariel et son chat.
Ah oui. Vous leur donnez quoi à manger à vos chats ou vos chiens?
Des crevettes.
Excusez-moi, des crevettes la semaine, un peu de caviar le week-end, hein,
et du saumon fumé.
Et j'ai remarqué que ce qu'ils préfèrent, c'est la crevette australienne. Ah oui. C'est sa favorite. Mais c'est ce qu'ils préfèrent. Mais en même temps, j'ai remarqué que comme ils me copient, tout ce que je mange.
Ah bah il doit pas être très gros alors.
Hein. Ah bah alors c'est une demi-crevette par jour.
Non mais donc c'est merveilleux parce que maintenant il aime tout. Enfin je prends un potage au potiron, il en veut.
très bien.
Je prends des croissants, il se jette, il veut absolument.
La mayonnaise, les chats ne sont pas faits pour faire la mayonnaise par exemple.
Ils savent pas.
Je suis pas du tout quelqu'un à mettre votre parole en doute. Mais votre dernier croissant remonte à quand?
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, indispensables, soyez là cet après-midi, 15h30, 18h sur RTL. Marina Le Ciel, on a sur Twitter Sylvie qui est dans le nord de la Seine-et-Marne qui nous dit depuis hier après-midi, c'est la pluie.
Ah oui, c'est impressionnant ce qui est tombé sur l'Île-de-France. D'ailleurs, notamment vers le Val-de-Marne, à Joinville, on a eu 43 mm de pluie en 24 heures. On a eu de la pluie en Corrèze, dans l'Indre, dans les Ardennes, la Savoie, le Lot, la Seine-et-Marne, à Crouy-sur-Ourcq, j'espère que je prononce bien, 66 mm. Il continue de pleuvoir là en Seine-et-Marne, alors que sur le reste de l'Île-de-France, ça commence à se calmer. En fait, on a une zone de forte pluie qui va des Ardennes, Seine-et-Marne, en allant vers le centre du pays, le Massif central, l'Occitanie. Ça va se décaler vers le nord-est et c'est sur le nord-est que l'on attend les pluies les plus soutenues cet après-midi. Jusqu'à demain après-midi, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges et le Bas-Rhin sont en vigilance orange. Il y aura du mieux sur l'ouest, le nord-ouest, Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, retour d'un temps sec et d'éclaircies cet après-midi. Et en Méditerranée, ça reste agréable malgré le vent. Il y a juste au sud de la Corse où on a quelques averses. Côté température, c'est frais. 16 à 24 sur une grande partie du pays, 26 à 27. Ça vous fait rire?
C'est frais.
Et voilà.
C'est comme ça.
Faut faire court. C'est simple.
Vous êtes parfaite, Marina Giraudot, pour le ciel de ce mercredi 14 juillet. Pour se remonter le moral, il y a le grand jeu RTL de l'été avec des cadeaux rien que pour vous, auditeurs, auditrices, des ordinateurs portables, des smartphones, des chèques de 1000 euros, des week-ends de Thalasso, des semaines de vacances en famille. Il y a aussi un vidéoprojecteur à décrocher ce matin, mais alors super moderne, ou alors une console de jeux vidéo pour les amateurs. C'est cadeau. Il faut choisir ce matin, donc, entre ces deux cadeaux-là et deux animateurs de l'antenne. Vous nous rejoignez dès maintenant au standard au 3210 3210 sur votre téléphone, ou alors vous envoyez RTL par SMS.
SMS au 74 900, 75 centimes par SMS.
RTL. RTL. Toujours avec vous.
RTL Matin.
Avec Stéphane Carpentier.
À 8h31, l'essentiel de l'actualité avec Hortense Crépin.
Dernier défilé du 14 juillet du quinquennat d'Emmanuel Macron. La cérémonie fait son retour sur les Champs-Élysées dans une heure et demie après avoir été très restreinte l'an dernier en raison de la pandémie. Et ce soir, le traditionnel feu d'artifice depuis le Champ de Mars à Paris, jauge de 15 000 spectateurs et passe sanitaire obligatoire. Le passe sanitaire, justement, qui entrera finalement en vigueur le 30 août pour les moins de 18 ans, mais aussi pour les salariés des établissements recevant du public. Eux devront avoir reçu leur première dose au plus tard le 1er août. Et puis après les lieux de culture dans une semaine, c'est dans les bars et les restaurants qu'il faudra présenter ce pass sanitaire début août, mais aussi dans les transports pour les grands trajets, précisément dans le courant de la semaine du 2 août après le week-end de chasse et croisée. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure sur RTL le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Le port du masque dans ces transports lui va rester obligatoire au moins jusqu'au 30 août. Et c'est dans ce contexte que la vaccination a battu hier un nouveau record avec 792 000 doses injectées. Le nombre de rendez-vous pris a lui été multiplié par 12 en 24 heures. Enfin, la 17e étape du Tour de France devrait permettre aux leaders du général de s'affronter. 178 km entre le Muret et Saint-Lary-Soulan avec une arrivée au col du Portet classé hors catégorie. Pogacar part avec le maillot jaune et plus de 5 minutes d'avance sur Uran. Départ à 12h10 à suivre toutes les demi-heures sur RTL avant de retrouver Christophe Paco pour le Club Jalabert. Ce sera à 18h30.
Christophe, on le retrouve dès 12h50 pour RTL chez vous d'ailleurs, au plus près des coureurs du peloton et de l'organisation de ce Tour de France. Événement qu'on suit sur notre antenne. Merci Hortense.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
C'est l'entretien du matin avec une personnalité pour poser un regard passé, présent, futur. Le virus, comment a-t-il chamboulé nos vies? Comment optimiser l'avenir? Rencontre ce mercredi avec une psy, Marie de Henzel, spécialiste de la fin de vie.
Bonjour Marie de Henzel.
Bonjour.
La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous?
Je vais bien, je vais bien. Je dirais que je suis curieuse de cette époque. Bon, aujourd'hui, je me sens, je dirais, assez sereine. Justement, parce que je sais que les choses sont difficiles, je sais qu'on est dans une incertitude totale, mais je sens bien aussi qu'il y a des points forts sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, je suis quelqu'un qui médite. Aujourd'hui, il faut vivre le présent, en fait.
Vous, Marie de Henzel, si vous aviez un mot pour définir le Covid, quel serait-il ?
Changement. Je crois vraiment que le monde ne peut pas être celui qu'il était avant.
Comment est-ce que vous envisagez demain ? Qu'est-ce que nous aurons dans le monde de demain que nous n'avions pas dans le monde d'hier ?
Moi, je ne crois pas du tout à un retour à la vie d'avant. Je pense qu'on refera des choses, mais autrement. Peut-être justement de se rendre compte qu'on ne maîtrise pas tout. Nous sommes dans un monde moderne qui s'est un peu construit sur l'illusion de la maîtrise, du contrôle. Et on se rend compte qu'on ne contrôle pas tout. J'espère aussi que l'on sortira avec un autre rapport à la mort. C'est-à-dire que le Covid, à cause du risque mortel, tout d'un coup a fait prendre conscience peut-être au fond qu'on passe les uns à côté des autres sans savoir vraiment qui on est. Là, j'espère qu'il y aura une prise de conscience sur le fait que passer un coup de fil à quelqu'un, ça peut être la joie de la journée d'une personne. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the
feeling of being alone. Bless the telephone. Vous êtes toujours préoccupé du bien vieillir. C'est un sujet, un thème qui vous est cher. Est-ce qu'on a appris sur nos aînés?
D'abord, je crois que ce sont nos aînés qui nous apprennent, qui nous ont beaucoup appris pendant la crise. C'est ce qui m'a le plus frappé, c'est tous les gens qui l'ont bien vécu. Et la clé, c'est que ce sont des personnes qui ont compris le paradoxe du vieillir. C'est-à-dire, le corps vieillit, ok, mais la pensée, c'est Victor Hugo qui dit « ma pensée croît, dans ma vieillesse il y a une éclosion ». Ce sont ces personnes qui nous apprennent en fait que pour faire face justement aux crises, il faut vraiment s'appuyer sur soi-même, sur ce qu'on a à l'intérieur.
Et vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris de la mort? Quelles leçons vous en tirez?
Bon, je fréquente la question de la mort depuis longtemps, mais je dois dire que il y a un an, enfin au début de cette pandémie, je me suis dit que ça pouvait m'arriver de mourir, effectivement. Eh bien, je me suis vraiment questionnée sur ce qui comptait. Et j'ai bien senti ce qui était important. Je dirais l'amitié, par exemple. La valeur de l'amitié. Je ne vois plus le lien avec mes amis de la même manière.
Est-ce qu'il y a un son, une musique qui vous a accompagné pendant cette crise? Quelque chose qui vous a peut-être apaisé, qui vous a peut-être réconforté?
J'ai un lieu spirituel qui est Thésée. C'est un lieu œcuménique, un lieu où il y a des mantras chantés, un texte court sur lequel on réfléchit. C'est cette atmosphère-là de chant extrêmement, je dirais, apaisant, pour pouvoir affronter, je dirais, la turbulence du monde.
Merci beaucoup, Marie de Wenzel.
Eh bien, merci à vous.
Et demain, les face-à-face de Guillemette Franquet, c'est tous les matins de votre été sur RTL. Il est 8h37. Dans un instant, laissez-vous tenter la culture, le cinéma, la croisette. On va à Cannes rejoindre Mickaël et Stéphane. Bonjour les garçons.
Bonjour, salut, Stéphane. Salut Stéphane.
Vous savez qu'on vérifie en week-end. C'est comme ça le matin. D'accord. Chez moi, c'est comme ça.
Okay. Je savais que Stéphane Carpentier était particulier.
Ça se confirme. On vérifie les infos. Restez là les garçons. Marina, quel temps à Cannes aujourd'hui?
Du ciel bleu.
Mais oui,
c'est tout.
C'est tout.
Vous prenez pas plus de risques.
Non, j'ai peur de ce qu'ils vont me dire. Il y a alors, pas de passage nuageux alors.
Il y a du ciel bleu.
Un peu de vent.
Oui, un petit peu de vent. Ouais. Il fait
beau. Ouais. Ouais. On garde, on profite.
Ouais, profitez bien. À tout de suite, le cinéma.
RTL. Stéphane Carpentier, laissez-vous tenter de l'été.